7h, 9h.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 avril, seul contre tous hier soir. Au grand débat des Européennes sur Europe 1, Stanislas Guérini, pour la majorité, a été la cible des 6 autres chefs et représentants de parti. Récit de la soirée, dans quelques instants avec Hélène Zellani, dès le début du journal. Encore une nouvelle date pour le Brexit. L'Europe accorde un nouveau report au 31 octobre. Les discussions ont été âpres et musclées, à ne pas manquer l'édito de Vincent Hervouet à 8h12. Et puis après le grand débat, les solutions, Emmanuel Macron va parler. Mais quand, comment et pour dire quoi, les informations de Jean-Michel Apathy à 7h40. Écoutez bien, un SDF sur 4 est un ancien enfant de la DAS. Le système de protection de l'enfance ne fonctionne plus. À 7h45, je reçois la députée La République En Marche, Perrine Goulet, rapporteure de la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance. Elle-même est une ancienne enfant placée et elle démarre aujourd'hui ses travaux. Écoutez.
Les Gaulois.
Vous les avez reconnus ? Le grand retour de nos irréductibles Gaulois, Astérix et Obélix, fêtent leurs 60 ans avec un nouvel album qui sortira en octobre. On vous dit tout dans le journal de 8h avec David Doucan. Allez, ça c'est le programme, on est ensemble jusqu'à 9h. Bon réveil à tous, merci de nous faire confiance.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce jeudi 11 avril. Excellent réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nicolas Aliagas.
Bonjour Hélène Zellani.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
3 heures de débat, 7 représentants de partis pour parler notamment de la place de la France au sein de l'Europe. Ça se passait hier soir sur Europe 1. Vous pourrez tout revivre en condensé dès le début de ce journal. Une date à retenir ce matin, le 31 octobre, fruit de l'accord trouvé cette nuit entre l'Europe et Theresa May. Ce sera la limite pour le Brexit, le meilleur compromis possible, selon Emmanuel Macron. Et puis 60% des Français font régulièrement des heures supplémentaires sans être payées. Rencontre avec ses salariés, pas forcément malheureux de la situation.
À 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera l'avocat Jean-Pierre Mignard.
Europe 1. C'était donc l'événement hier soir sur Europe 1 et CNews. Débat avec 7 chefs et représentants de partis qu'on peut résumer en une seule phrase. Stanislas Guérini, seul contre tous. Il faut dire que le représentant de La République En Marche a été la cible des attaques de tous les autres participants. Si vous n'avez pas pu écouter ces 3 heures de débat, voilà le résumé concocté spécialement pour vous par Adrien Beck.
Son nom est revenu sans arrêt, Stanislas Guérini, le patron de l'AREM, attaqué de toutes parts. À travers lui, c'est bien sûr Emmanuel Macron qui était visé. À gauche, d'abord, l'insoumis Adrien Quatennens ne s'en cache pas, lui qui dénonce la suppression de l'ISF.
En matière de fiscalité, ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est qu'Emmanuel Macron a plus que mérité son titre de président des riches.
Stanislas Guérini, accusé dans la foulée par Marine Le Pen de ne pas comprendre le sentiment d'injustice dans la société.
C'est pas comptable ça, monsieur Guérini. C'est pas que des chiffres, c'est pas des courbes.
Puis arrivent les retraites, sujet cher à Laurent Wauquiez.
D'un côté, vous avez appauvri les retraités. 2 retraités sur 3, monsieur Guérini, regardez-moi. 2 retraités sur 3 qui ont perdu du pouvoir d'achat. Le président de la République, regardez-moi s'il vous plaît.
Oh, excusez-moi, vous évoquez le président de la République. Je reste libre de mes mouvements. Je sais que vous êtes un peu autoritaire.
Pas du tout.
Mais je crois qu'avec moi, ça ne prendra pas.
Cerné par ses opposants, le chef du parti majoritaire s'en amuserait presque.
Je ne sais que choisir. Donc je vais choisir de dire la vérité des faits. C'est peut-être ça qui sera le plus simple ce soir dans ce débat.
Unanime contre Emmanuel Macron, les oppositions n'en oublient pas leurs divergences. Retour d'un clivage droite-gauche sur l'immigration. Vif échange entre Nicolas Dupont-Aignan et Olivier Faure.
C'est un concours pour celui qui favorisera le plus l'immigration.
Vous parlez là de vie humaine, vous parlez de gens. Il y en a 20 000 qui sont morts dans cette Méditerranée.
Et justement, à cause de votre laxisme.
20 000.
À cause de votre
et donc
laxisme.
Ce n'est pas un concours.
Quant à Marine Le Pen, elle préfère s'en prendre à Laurent Wauquiez, l'accuse d'être hypocrite sur la protection des frontières françaises et européennes. Le patron des Républicains s'en défend, de quoi agacer l'écologiste David Cormand.
Monsieur Wauquiez, vous n'avez pas à vous excuser de ne pas être d'extrême droite. C'est pas grave, on vit très
mais
bien.
C'est pas du tout mon sujet.
Illustration d'un débat ou de l'immigration aux frontières en passant par la laïcité, la droite aura réussi à imposer ses thèmes.
Adrien Beck, c'est aujourd'hui que le Parlement doit adopter définitivement le projet de loi Pacte avec la très controversée privatisation d'Aéroports de Paris. Le gouvernement dénonce le coup politique de l'opposition, droite comme gauche, qui a lancé un RIP, référendum d'initiative partagée. Encore faut-il le soutien de 4,5 millions de personnes. Europe 1, il est 7h03.
Alors vous n'avez peut-être pas écouté le débat hier soir sur Europe 1 parce que vous étiez en train de travailler.
Oui, peut-être que vous faites partie des 6 Français sur 10 qui font des heures sup non rémunérées. 5 heures de plus en moyenne chaque semaine, si on en croit l'étude menée par le groupe de gestion de ressources humaines ADP. François Geffrier a rencontré ces travailleurs en partie bénévoles.
Il y a les extrêmes, les stakhanovistes de leur sup.
Moi, il m'est arrivé de travailler jusqu'à 2h du matin, sans déclarer quoi que ce soit, sans être payé, ça ne me dérange pas.
Abdel le vit bien.
Ça donne une flexibilité. En contrepartie, si on travaille que 7h, voire 6h par jour, personne ne va dire quoi que ce soit.
Tandis que Fabienne et Yasmine aimeraient bien lever le pied de temps en temps.
Si je suis sûre de ne pas avoir une contrepartie, au minimum d'avoir une récupération, maintenant, je dis non.
Tu le fais sans récupération. On râle, mais on le fait. Hein.
Est-ce que vous avez imaginé ce que ça vous aurait rapporté si elles étaient toutes payées, ces heures sup?
On serait très riches, on pourrait partir en vacances très loin, ce qui n'est pas le cas.
Mais il faut dire que ce n'est pas toujours bien vu de déclarer ses heures sup.
On ne le fait pas parce qu'on va nous cataloguer. Si elle n'est pas capable de faire son travail dans un délai requis, elle n'est pas faite pour ce poste.
Quant aux plus jeunes, ils seraient beaucoup moins nombreux à faire des heures sup non payées, ce que confirme Ilem, 24 ans.
C'est notre volonté. On a un temps de travail de 9h à 17h30, on finit nos horaires. Quoi. On s'organise dans la semaine pour finir notre travail. Quoi. Aussi, il faut savoir que les managers, ils sont plus jeunes aussi. Donc ils nous laissent un peu gérer en fait comme on veut.
Alors, faut-il commencer tôt à ne pas travailler tard, c'est peut-être une question de génération.
Mais nous, on travaille tôt, tout court. François Geffrier. Eux, ils ne travaillent plus, mais ils battent encore le pavé. Les retraités à nouveau mobilisés ce jeudi. Manifestations et rassemblements dans 130 villes à l'appel de 9 syndicats et associations de retraités. Ils dénoncent la politique du gouvernement qui, selon eux, reste sourd à leurs revendications, notamment sur la hausse de la CSG et le quasi-gel des pensions.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal. Un accord trouvé cette nuit à Bruxelles pour le Brexit. Date limite fixée au 31 octobre.
Mais qu'est-ce qu'on ferait sans vous, Hélène Zelani?
Il est 7h06, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal de 7h avec Hélène Zelani. Nouvel épisode du feuilleton du Brexit avec une date importante, le 31 octobre.
Oui, l'accord a été trouvé dans la nuit après d'interminables discussions à Bruxelles, sachant que le Royaume-Uni pourra sortir de l'Union plus tôt si jamais l'accord de retrait est voté à Londres. Il s'agit d'un compromis, car plusieurs pays, dont la France, voulaient un report plus court. Jean-Rémy Baudot, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bruxelles. Le chef de l'État s'est retrouvé isolé.
Oui, Emmanuel Macron était arrivé hier soir à Bruxelles sur une position de fermeté. Rien n'est acquis, aucune extension longue, martelait le chef de l'État. Sauf que pendant la soirée, l'exigence de Paris a tendu les négociations. Selon certains observateurs, la France s'est retrouvée face à 17 pays qui, eux, étaient prêts à donner plus de temps au Royaume-Uni. Le président Macron n'ayant réussi qu'à fédérer que la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne et Malte. En coulisses, la position de la France a clairement agacé. Il faut qu'il redescende de son arbre, confie un diplomate. Un autre accuse, Macron a brisé l'unité des Européens. Même Angela Merkel a confié à quelques dirigeants « Je ne comprends pas Macron », fin de citation. Du côté de l'Élysée, on assume, on explique que c'est cette fermeté qui a permis d'obtenir le compromis du 31 octobre. Alors qu'il place l'Europe au cœur de son engagement, le président Macron ressort néanmoins fragilisé de cette séquence. Ces négociations du Brexit laisseront clairement des traces en Europe.
Jean-Rémy Baudot à Bruxelles pour Europe 1. Emmanuel Macron qui a salué l'accord sur le report du Brexit comme le meilleur compromis possible qui a permis selon lui de préserver l'unité des 27. Une autre date, celle de l'élection présidentielle en Algérie. Ce sera le 4 juillet. Décret signé par le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah. Et puis en Israël, on devrait connaître le résultat officiel des législatives dans l'après-midi. Selon les projections, Benjamin Netanyahou et son adversaire de centre droit Benny Gantz décrochent autant de sièges, 35. En revanche, le Premier ministre sortant est assuré d'emporter la majorité absolue grâce au jeu des alliances avec d'autres formations de droite.
On va prendre le train maintenant avec vous, si vous le voulez bien, en l'occurrence la LGV Paris-Rennes.
Oui, ligne à grande vitesse inaugurée en juillet 2017. Depuis, les trains passent jusqu'à 100 fois par jour à 320 km/h. Un enfer pour les riverains qui dépriment totalement et se sont regroupés en collectif pour réclamer des indemnités en justice. 200 dossiers, rien que pour le département le plus touché, la Sarthe, où s'est rendu François Coulon pour Europe 1.
Elle était venue couler ici, une retraite paisible en pleine nature. Jacqueline se retrouve aujourd'hui à 70 mètres de la ligne à grande vitesse.
Voilà le bruit du TGV, 90 décibels. Comment voulez-vous qu'on s'entende? C'est pire qu'un avion. Moi, je ne peux plus supporter. J'ai fait une dépression. J'ai des médicaments pour la tension, tellement je suis stressée, je ne peux pas rester ici.
Vous pouvez la revendre, votre maison ?
Actuellement, non. S'il n'y a rien de fait, on ne pourra jamais vendre notre maison. C'est moins 40 à 50% de moins la valeur actuelle, de toute façon. Hein. Rien que pour le bruit du TGV. Moi, je crois que même les murs anti-bruit, tout ça, ça sera même passé.
7000 habitants de la Sarthe sont impactés par la LGV. Réduire leur calvaire n'est pas forcément compliqué. Il suffirait de passer de 320 km/h à 250, estime le maire de Chantenay-Ville-Dieu, Régis Serbel.
Est-ce que 7 minutes 50 dans la vie d'une personne, c'est plus important que de pourrir la vie de 7000 personnes de la Sarthe ? On a déjà arrêté des gens qui projetaient de balancer des choses sur les lignes. Comment voulez-vous que des gens qui prennent 90 décibels 100 fois par jour ne pètent pas les plombs ?
200 riverains s'apprêtent à demander en justice de grosses indemnités à la SNCF. Coulon sur G, François Coulon, Europe 1.
Et je ne peux pas vous quitter sans dire un mot de football, un mot de la Ligue des Champions. Deux matchs de quart de finale se jouaient hier soir. Barcelone est allé battre Manchester United 1-0. Et puis un partout entre l'Ajax Amsterdam et la Juventus Turin.
Merci Hélène Zeleny, je vous souhaite une excellente journée.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h10, l'heure de retrouver Carole Ferry qui, comme chaque jour, est sur le terrain, Nikos.
Bonjour Carole.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Vous êtes où ce matin ?
Je suis chez Roger et Marité à Bourgoin-Jallieu en Isère et ça ne se voit pas du tout. Mais Roger, 58 ans, est malade, atteint de Parkinson. Le diagnostic a été brutal il y a 6 ans. Il a perdu son emploi de secrétaire de mairie. Depuis, son quotidien ralentit un peu plus chaque jour. Et en cette journée mondiale du Parkinson, eh bien, il faut balayer une idée reçue. Quand on dit Parkinson, on pense immédiatement tremblement.
C'est vrai.
Mais c'est loin d'être toujours le cas. En réalité, c'est le corps qui se paralyse. Le pas devient lent, les gestes plus laborieux. Même pour préparer, vous allez l'entendre, un simple petit déjeuner.
Une chose très basique, prendre une bouteille de lait.
Dans le frigo.
Dans le frigo. Bon, déjà, c'est assez lourd. Malgré que ça fasse 60 grammes, c'est très lourd. Et pour dévisser, c'est très dur parce qu'on n'a pas de force dans les mains. Pareil pour la cafetière. On ouvre. Refermé, c'est très, pas évident.
Voilà, le plus dur pour Roger, c'est qu'il adorait rédiger des lettres. Aujourd'hui, son écriture est devenue illisible et c'est un peu pour ça, notamment, qu'il a perdu son emploi.
Mais Carole, pour les auditrices, auditeurs ce matin qui nous suivent, comment on se rend compte qu'on est atteint d'un Parkinson ?
Eh bien justement, c'est très difficile à détecter. Roger, par exemple, a été hospitalisé pour dépression grave sans que personne ne s'aperçoive qu'en réalité, c'était un Parkinson. Car ses gestes ralentis, peu de gens les reconnaissent en dehors des neurologues. Et c'est ça aussi qui rend le quotidien de Roger très pénible.
Le regard des gens est très, très, très violent. C'est brutal quand les gens vous disent « Comment ça se fait que vous êtes devant ? Vous avez une carte prioritaire, vous êtes handicapé. » C'est ce qui est le plus dur à l'extérieur. Je pense que c'est pour ça que le Parkinson se renferme. Et quand on arrive à discuter avec les gens qui vous font des réflexions, il faut le dire sous le ton de l'humour. Comme ici, nous sommes dans le Dauphiné, par exemple. J'ai du mal à prendre des sous dans mon porte-monnaie. Les gens me disent, vous pouvez aller plus vite. Je dis non, je suis dauphinois, je peux pas. Les gens, ils marquent à temps d'arrêt, ils disent, qu'est-ce qu'ils me racontent? Il faut le prendre comme ça, autrement, ça sort jamais. Et après, vous vous énervez, ça sert à rien.
Et même son épouse Marité a mis du temps à s'y habituer.
Je dis des fois, mais tu fais la tête, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est pas ça, c'est en fait, c'est le... il n'y a plus d'expression du visage. La rigidité fait que, bon, on a l'impression que son conjoint fait la tête, alors que ce n'est pas ça.
Voilà la réalité, et ces témoignages sont très forts. Est-ce qu'il y a un traitement pour le Parkinson ?
Oui, mais qui aide à lutter contre les symptômes de la maladie, mais qui ne guérit pas. Alors, pour ne pas s'enfermer dans cette maladie, Roger a créé une antenne France Parkinson à Bourgoin-Jallieu. Les gens se rencontrent, il y a même des ateliers de danse adaptés à la maladie. Car il faut surtout, me dit Roger, continuer à bouger.
Carole Ferry était en Isère ce matin, voilà, pour la journée mondiale du Parkinson. On envoie toutes nos meilleures ondes à Roger et à Marité. On pense à vous, bon courage pour la suite.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Nicolas Barré, bonjour.
Bonjour Nikos.
Qu'est-ce qu'on doit dire ce matin pour l'édito éco ?
On va parler d'Uber. Ouais. Uber qui vaut 100 milliards de dollars.
Sur côté en bourse ?
Pas encore. Et pourtant, ils perdent de l'argent.
Vous nous racontez tout dans quelques instants. Puis à 7h20, la guerre des poubelles entre l'Amérique et la Chine. Les Chinois ne veulent plus recycler les déchets américains. Pas assez rentables selon eux. Trop polluants. Europe 1 va plus loin. Ce matin aux États-Unis, qui découvrent l'immense défi du recyclage.
Bon réveil à tous sur Europe 1, il est 7h13. Il est 7h16, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
L'Union Européenne qui donne 6 mois de plus au Royaume-Uni pour réussir sa sortie. Le report du Brexit pourra aller jusqu'au 31 octobre, accord trouvé cette nuit à Bruxelles. Le débat des Européennes, hier soir sur Europe 1 en partenariat avec CNews. 3 heures de discussion, Stanislas Guérini, représentant de la majorité, a été la cible numéro 1 des 6 autres participants. Les retraités à nouveau dans la rue, manifestation dans 130 villes prévues aujourd'hui. Ils réclament notamment la suppression totale de la hausse de la CSG et la revalorisation de leur pension. Un mot de météo, retour du soleil, mais le froid persiste. Température maximale cet après-midi de 9 à 17 degrés.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 7h30.
Europe 1.
C'est l'heure, Nikos, de l'édito éco avec le Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nicolas.
Tout le monde connaît Uber, hein, la société américaine de VTC qui va bientôt s'introduire en bourse. Elle est d'ailleurs valorisée à 100 milliards de dollars et pourtant, elle perd de l'argent. Comment est-ce possible ?
Eh ben c'est tout, ça s'appelle un pari, hein, c'est tout l'intérêt de la bourse. Uber est devenu en quelques années le leader mondial des VTC. Effectivement, la légende veut que les deux fondateurs aient eu l'idée quand ils étaient un jour à Paris en 2008 parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de taxi. Et de fait, il y a un réel besoin, pas seulement d'ailleurs à Paris. Aujourd'hui, Uber est présent dans environ 800 très grandes métropoles mondiales. Ils ont 100 millions d'utilisateurs, mais ils ne gagnent pas d'argent. Ils en perdent même énormément, 1,8 milliard de dollars l'an dernier, après 4,5 milliards de dollars l'année d'avant.
Et malgré cela, la bourse y croit.
Ben oui, comme elle croyait d'ailleurs en Amazon, avant qu'Amazon ne gagne de l'argent, Uber espère récolter 100 milliards de dollars en s'introduisant à la bourse de New York début mai, ce qui valoriserait donc l'entreprise autour de 100 milliards de dollars. Et jusqu'ici, ce sont de gros industriels, par exemple, qui ont financé Uber, comme Toyota. Mais là, tout le monde pourra acheter des actions et faire le pari qu'un jour, Uber sera une affaire rentable. Il y a un précédent, Lyft, qui est le concurrent d'Uber et qui est déjà coté en bourse. C'est un pari, mais on voit bien que ces sociétés ont inventé un nouveau type de service, qu'elles sont en train de trouver leur modèle économique, un modèle fondé sur la remise en cause d'un ordre établi. La preuve, c'est devenu un verbe. On dit se faire ubériser, comme les taxis sont fait ubériser par un service plus simple, comme les banques se font ubériser sur une partie de leur activité. Le succès des plateformes comme Uber, c'est justement d'avoir révolutionné de vieux métiers. Et si Uber vaut 100 milliards en bourse, c'est parce que la bourse parie que la révolution va continuer et même s'étendre.
Mais il va falloir quand même que les plateformes comme Uber abandonnent certaines méthodes, Nicolas, comme notamment sur le plan social.
Alors oui, ça c'est un grand défi. De même qu'elles ont inventé un nouveau business, il faut adapter l'environnement social. Ça ne peut pas être la loi de la jungle avec des employés sans protection et sans droit. Mais il faut aussi une forme de souplesse. L'Institut Montaigne suggère des pistes pour que ces travailleurs soient à la fois autonomes et protégés, qu'ils aient accès à une mutuelle par exemple, pour éviter que leurs droits sociaux ne soient à leur tour complètement ubérisés.
Merci Nicolas Barré, c'était l'édito éco.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h19, Europe 1 va plus loin ce matin aux États-Unis où des centaines de villes n'arrivent plus à faire recycler leurs déchets parce que la Chine ne veut plus les acheter.
Et il y a urgence à trouver d'autres voies, d'autres solutions. Et on en parle ce matin avec le correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier Yvon. Bonjour Xavier.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Vous êtes à Philadelphie, en Pennsylvanie. C'est la ville qui symbolise cette crise du recyclage aux États-Unis.
Oui, et pour vous faire comprendre ce qui se passe là-bas, je vous emmène dans la cuisine de Nathaniel Popkin, c'est un écrivain local, et il est peut-être l'habitant de Philadelphie le plus consciencieux quand il s'agit de trier ses déchets.
So this jar of peanut butter, it's oily. So what...
Nathaniel nous montre un pot de beurre de cacahuète vide, évidemment très gras. Mm-hmm. Avant de le jeter à la poubelle bleue, il le passe au lave-vaisselle. Oui, il nettoie tous ses déchets pour un meilleur recyclage. Sauf que depuis 6 mois, la moitié des déchets recyclables de la ville finissent à l'incinérateur, brûlés avec les ordures. Ah. Et ça, Nathaniel l'a découvert dans la presse.
Quand j'ai appris que ce recyclage, en fait, n'était pas réel, ma tête a explosé. Imaginez une ville d'1,5 million d'habitants qui font tout ça pour de faux. C'est absurde. Ce que nous faisons, c'est une mascarade.
Pour de faux, parce qu'en même temps, ils utilisent de l'eau. Donc c'est un cercle infernal. Mais pourquoi la ville ne recycle-t-elle pas les déchets qui sont triés par les habitants, pour qu'on comprenne ?
Eh ben, la réponse, elle se trouve à 10 000 km de là, en Chine. La Chine qui achetait l'immense majorité des déchets recyclables américains. 4 000 containers remplis de plastique chaque jour. Mais du jour au lendemain, Pékin a fermé les portes. Plus assez rentable, trop polluant. La Chine ne veut plus être le recycleur du monde. Alors, faute de débouchés, les déchets recyclables américains ont perdu leur valeur. Mmh. Au grand dam de Joe Valenti, son entreprise les collecte pour les revendre.
Le marché ici aux États-Unis est asséché. Personne ne veut prendre nos matériaux. Le verre, les canettes, les bouteilles. J'ai été payé $30 par tonne. Mais maintenant, ça me coûte 5 dollars par tonne.
Et c'est pareil pour Philadelphie qui gagnait de l'argent avant en vendant ses déchets et qui s'est retrouvé d'un seul coup avec une facture astronomique pour les faire traiter.
Donc en fait, les États-Unis se retrouvent avec leur montagne de déchets sur les bras, mais est-ce que ça amène une prise de conscience de la population ?
Oui, alors ça commence, hein, même si les Américains restent les plus gros producteurs de déchets au monde, il y a un mouvement naissant pour arrêter de surconsommer des produits jetables. New York, par exemple, vient d'interdire les sacs plastiques à usage unique. Pareil pour les pailles en plastique en Californie. Mais évidemment, la meilleure solution, c'est en fait d'avoir moins de déchets. Et c'est ce que va proposer un tout nouveau service le mois prochain. Ça s'appelle The Loop, la boucle en anglais. Loop. L'idée, c'est de remettre au goût du jour la bouteille du laitier, vous savez, déposée pleine devant votre porte et que vous rendiez vide pour être re-rempli. Eh bien, avec The Loop, Tom Zaki veut faire pareil pour tous les produits de la vie courante, du shampoing à l'huile d'olive, remplacer les emballages jetables par des contenants réutilisables, un pot en acier inoxydable, par exemple, plutôt qu'en carton, pour mettre de la glace.
And then when et quand c'est vide, quand votre bouteille n'a plus de jus d'orange, quand votre pot de glace est fini, vous les jetez. Sauf que vous ne les jetez pas dans une poubelle normale, recyclable, mais dans une corbeille pour réutilisation. Pas besoin de nettoyer ou de trier. Nous venons directement chez vous chercher les contenants, nous les emportons, nous les nettoyons et nous les redonnons au producteur qui les remplisse à nouveau et les voilà repartis dans le circuit.
Et Tom Zaki a convaincu les plus grands groupes mondiaux de participer. Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Haagen-Dazs et Carrefour. D'ailleurs, je vous l'annonce, c'est en France que ce service sera lancé en tout premier, le 14 mai prochain, avant d'arriver ici à New York, de s'étendre en Europe et au Japon, en espérant révolutionner notre manière de consommer et donc de jeter.
Et voilà pour cette révolution du recyclage que vous nous annoncez ce matin, Xavier Yvon. Merci, vous êtes le correspondant permanent d'Europe 1 aux États-Unis. Merci pour ce dossier signé Europe 1. Va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'innovation du jour avec vous, Anissa Mbida. Oui. Ce matin, une piste pour lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, on va utiliser des bactéries pour grignoter tous les gaz à effet de serre de l'atmosphère.
On va les mettre où, les bactéries ?
Non, ils vont les manger.
Qui ?
Mais vous allez voir.
Vous allez voir. Tout de suite.
Bon réveil avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Il est 7h24. Il est 7h27, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissa Mbida, Nikos.
Peut-être une bonne nouvelle grâce à vous, Anissa. Enfin, grâce à vous, grâce à cette innovation que vous allez partager avec nous. On a peut-être trouvé une nouvelle piste pour lutter contre le réchauffement de la planète.
Oui.
Laquelle ?
Oui, c'est d'utiliser des bactéries pour nous débarrasser des gaz à effet de serre.
D'accord.
Alors évidemment, il faut continuer à réduire nos émissions. Mais une équipe de chercheurs a réussi à isoler et à cultiver un type de bactéries un petit peu spécial puisqu'elles se nourrissent de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'en les lâchant dans l'atmosphère, eh bien, elles pourraient faire le ménage et supprimer tous ces gaz qui, aujourd'hui, augmentent, accélèrent le réchauffement climatique.
Mais comment on va les lâcher, ces bactéries, dans l'atmosphère ? Avec des sprays, avec des purificateurs d'air
géants ? Je sais
géants.
Que ça vous intéresse. Alors, malheureusement, on n'y est pas encore. Ça sera la prochaine étape. Mais pour l'instant, les scientifiques ont simplement réussi à isoler une bactérie qui gobe le méthane. Alors, le méthane, on en parle moins que le CO2. Pourtant, c'est le deuxième gaz qui contribue le plus au réchauffement climatique. Et le pire, c'est que ces émissions sont en train d'exploser. Vous avez certainement entendu parler du pet des vaches, méthane.
Oui.
Beaucoup de cultures dégagent du méthane, sans parler des fours, des chauffe-eau, etc.
Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va pas aller derrière les vaches avec un spray, quoi, pardon.
Non, justement. Donc la première étape, c'est justement après le méthane, après cette bactérie qui mange le méthane, c'est une bactérie qui mange le CO2.
D'accord.
Et on va trouver une technique justement pour les envoyer dans l'atmosphère, justement limiter le réchauffement climatique.
Écoutez, c'est une bonne initiative. En tout cas, il y a urgence. Je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a des chercheurs suisses qui annoncent que les glaciers des Alpes pourraient tout simplement disparaître en 2100.
Oui,
c'est incroyable. Et si rien n'est fait pour réduire justement les gaz à effet de serre, notre planète est fragile. Merci de nous le rappeler, Anissa Mbida, ce matin.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans deux minutes, le journal de Céline Kallmann. Mais tout de suite, on entend la petite musique. C'est Laurent Cabrol qui arrive.
Eh oui, et avec sa bactérie, c'est la Plocorolococcus. C'est pas ça ?
La quoi ?
Plocorococcus, non ?
C'est celle-là, la bactérie ?
Non, 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 c'est MPO, on l'appelle.
MPO. Ah bon,
parce qu'il y en a une qui existe, la Prochlorococcus, qui est une bactérie qui est au fond de la mer.
D'accord.
Et qui absorbe aussi les gaz à effet de serre.
Celle-ci, elle est dans le sol.
est dans le sol. Ah, la vôtre est dans le sol.
Vous vous y connaissez en bactéries, messieurs. Et au niveau de la météo
Bah, c'est de la météo. Ce n'est plus ni moins que de la météo, mais un petit peu particulière. Oui. Vous dire simplement que sur la moitié sud, eh bien, nous aurons de la pluie ce matin. Après, que ça ira beaucoup mieux, oui, notamment sur les Alpes du Sud, la Côte d'Azur, la Franche-Comté, le Limousin et la Nouvelle-Aquitaine. Et vous dire que sur la moitié nord, il va faire très beau à Paris, très beau dans le nord, dans le nord-est, dans l'est. Enfin bref, tout ce qui est au nord de la Loire, c'est du beau temps avec des valeurs de 14 à 18 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
À suivre Nikos.
À suivre énormément de choses avec les réponses du président en grand débat. Jean-Michel Apathy nous dira que va faire le président, comment va-t-il s'exprimer et pour dire quoi surtout. Ce sera à 7h40. À 7h43, Axel de Tarlé, l'Europe et ses règles, elles sont fermes, mais ça plaît au monde des affaires. Et puis à 7h45, écoutez bien, la République face au défi du suivi des enfants placés. Parce que le système est à bout de souffle, parce que un SDF sur quatre est un ancien enfant de la DAS, je reçois la députée La République En Marche, Perrine Goulet, rapporteure de la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance. Excellent réveil à tous. Merci de nous faire confiance. C'est Europe 1.
Nous sommes le jeudi 11 avril, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Merci d'être là, Céline Kallmann, c'est le journal de 7h30.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Une découverte historique aux Philippines, celle d'une nouvelle espèce humaine. Une équipe internationale, parmi lesquelles 4 chercheurs français, sont tombés lors de fouilles dans une grotte sur des cousins de l'humain. Ils dateraient de plus de 50 000 ans. Les ossements ont été trouvés sur une île touristique, l'île de Luzon. À quoi ressemblait-il ? Réponse avec l'or d'Autriche.
Sous 1,50 m d'argile, les chercheurs ont découvert des dents, des os, de mains et de pieds d'hommes qui ont vécu il y a 50 000 ans. Le plus surprenant, c'est que leurs mains et leurs pieds, courbes, ressemblent à ceux des Australopithèques qui vivaient en Afrique il y a bien longtemps, 3 millions d'années. Alors que certaines dents ressemblent au contraire à celles de notre propre espèce Homo sapiens. Ce mélange d'éléments primitifs et modernes est inédit, explique le paléoanthropologue Florent Détroit. C'est ce qui permet aujourd'hui de définir une nouvelle espèce, Homo luzonensis.
On peut dire qu'il était probablement petit si on en juge par la taille de ses dents. Il devait avoir des pieds assez curieux d'après la morphologie des os des pieds qu'on a découverts. Probablement bipède au sol et grimpeur dans les arbres.
La découverte de cette nouvelle espèce prouve une fois de plus que l'évolution de l'homme n'est pas linéaire, que les différentes espèces ne se sont pas succédées, mais ont souvent cohabité. Il y a 50 000 ans, alors que ces hommes vivaient aux Philippines, au même moment, notre espèce Homo sapiens était aussi présente sur une bonne partie de la planète.
L'or d'Autriche pour Europe 1. On l'a appris il y a quelques minutes. Emmanuel Macron a promulgué le texte de la loi anti-casseurs dont le Conseil constitutionnel a censuré un des articles phares. Hier, le ministre des Relations avec le Parlement a annoncé qu'il n'y aurait pas de deuxième délibération. Le feuilleton est loin d'être terminé. Concernant le Brexit, la date butoir a été fixée au 31 octobre. Décision des dirigeants européens réunis jusque dans la nuit à Bruxelles. Theresa May a précisé que si elle réussissait à faire adopter l'accord avant, alors le Royaume-Uni sortirait à ce moment-là.
Et Trump, le président américain Donald Trump a tweeté « Dommage que l'Union européenne soit si dure pour le Royaume-Uni et pour le Brexit ».
Carlos Ghosn va être entendu par la justice japonaise dans l'enquête sur les malversations. Malversations présumées de son mari. Elle avait quitté Tokyo peu après la nouvelle arrestation de son mari, donc Carlos Ghosn.
On va revenir, Céline Kallmann, sur le débat hier soir sur Europe 1 et CNews. 3 heures d'échanges, de discussions et de crispations autour du thème de l'Europe.
Oui, 7 chefs de représentants de parti étaient présents autour de Laurence Ferrari et Mathieu Béliard. Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche, a été ciblé par l'opposition. Il a été question notamment du pourquoi de la crise des gilets jaunes, de l'ISF et surtout du prix des carburants. Écoutez l'échange entre Laurent Wauquiez et Stanislas Guérini.
Vous avez décidé en 2018 une taxe sur l'essence et le carburant. Elle est toujours en œuvre, elle est toujours appliquée. La question que je vous pose, cette taxe que les Français, quand ils prennent leur plein d'essence aujourd'hui, continuent à payer, est-ce que vous vous engagez à la supprimer ?
Je me suis engagé à maintenir les suppressions de taxes que nous avions prises.
C'est pas
de taxe pour 2019, pas de nouvelle taxe sur le carburant.
C'est pas ma question.
Et avec ça, qu'est-ce qu'on finance ? En l'occurrence, on a financé le fait que les Français puissent plus facilement
changer de véhicule. Mais la question, c'est pas celle-là. Est-ce que vous vous engagez à la supprimer ou non ?
Rénover leur logement. On a investi dans les énergies renouvelables.
Donc vous la supprimez pas ?
Moi, je suis...
Donc vous supprimez pas ?
Pour 2018, pas pour 2018.
Bon, bah voilà.
Mais je suis favorable à ne pas augmenter la fiscalité
David
sur Cormand. Le carburant.
Stanislas Guérini et Laurent Wauquiez hier soir sur Europe 1. 130 rassemblements prévus à travers tout le pays à l'appel de 9 syndicats et associations. Nouvelle journée d'action des retraités aujourd'hui pour réclamer l'annulation de la hausse de la CSG et la revalorisation des pensions. Un fusil de chasse, deux pistolets semi-automatiques mais aussi des munitions. Voilà une partie de la liste des armes que Jean-Marie Le Pen est soupçonné d'avoir détenues illégalement. Il doit comparaître cet après-midi devant le tribunal de grande instance de Nanterre. L'affaire qui date de 2015 avait déjà été renvoyée pour raison médicale. Ils affirment avoir été opérés de manière abusive. Certains patients ont été mutilés. Ils réclament l'ouverture d'une enquête pénale contre un chirurgien grenoblois. Il a été récemment suspendu pour de multiples fautes. La procédure disciplinaire avait été lancée par la Sécurité sociale de l'Isère. Elle a relevé des irrégularités dans 54 dossiers en 2013 et 2014.
Ça fait 12 ans qu'il se bat contre Monsanto. 12 ans que Paul-François, céréalier français, ne lâche rien.
Un petit céréalier contre la firme américaine Monsanto. En 2004, l'agriculteur avait été gravement intoxiqué par un herbicide. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Lyon doit se prononcer une nouvelle fois sur cette procédure qui n'en finit pas, Pierre de Cossette.
Il a appris à ne pas crier victoire. Et pourtant, à deux reprises déjà, Paul-François a gagné contre Monsanto. Deux fois, la justice a reconnu la responsabilité de la firme américaine dans l'état de santé du céréalier. Depuis ce jour de 2004 où l'agriculteur charentais a inhalé des vapeurs d'un puissant herbicide, le Lasso, il a su souffrir de graves troubles neurologiques, d'où cette bataille de longue haleine face à un géant industriel aussi déterminé que lui.
Ils sont capables de tout. Pour un problème d'expertise, ils ont été jusqu'à la Cour de cassation. Se frotter à eux, c'est inimaginable. En novembre 2014, j'ai vraiment envisagé de stopper la procédure parce que vous n'endormez plus la nuit, ça détruisait ma famille, ça détruisait mon couple. Un médecin m'avait dit au départ, en voyant mon dossier, m'avait dit « vous auriez dû mourir dans l'heure de votre intoxication, vous avez la peau dure ».
Dans ce marathon, Monsanto considère que le céréalier n'a pas pris les précautions nécessaires en 2004. L'entreprise d'agrochimie a d'ailleurs remporté la dernière manche. Paul-François le sait, si la justice lui attribue aujourd'hui le million d'euros de réparation qu'il réclame, Monsanto pourra encore aller devant la Cour de cassation.
Pierre de Cossette avec François Coulon pour Europe 1. Les autorités sanitaires rappellent des produits fabriqués par la société fromagère de la Brie en Seine-et-Marne. Des cas de listériose ont été détectés. De la crème et des fromages sont concernés. Je vous renvoie sur notre site europe1.fr et vous retrouverez les lots qui sont en cause. Du football, Ligue des Champions, la Juventus Turin et l'Ajax Amsterdam ont terminé à un partout hier soir. Barcelone a battu Manchester United 1-0.
Merci Céline Kallmann.
Et on a beaucoup de tweets, Nikos, de nos auditeurs avec le hashtag Europe 1. On remercie Marie du côté de Cannes pour ce magnifique lever de soleil sur la Méditerranée. Ou encore Vincent, agriculteur dans le nord de l'Aisne, avec cette photo du soleil qui se lève sur ses champs. Vos photos, vos messages, on les aime, on les attend sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, la politique avec vous, Jean-Michel Apathy.
Oui, on attend qu'Emmanuel Macron tire enfin les leçons du grand débat. Quand va-t-il intervenir? Que va-t-il dire? Des éléments de réponse dans la chronique à suivre.
Et Axel de Tarlet, on va parler du droit européen.
Voilà, avec le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui se dit scandalisé par le traitement infligé à Carlos Ghosn et par la justice japonaise.
Apathy Tarlet, le duo gagnant, c'est dans un instant sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Il est 7h39, Nikos Aliagas, on retrouve Jean-Michel Apathy.
Et tout le monde attend les réponses du président après le grand débat, intervention très attendue. Et vous avez des infos, Jean-Michel Apathy ?
Oui, j'en ai à la fois sur la forme et sur le fond. Alors avant de les évoquer, il faut tracer le cadre, c'est assez banal, mais Emmanuel Macron, depuis plusieurs jours, reçoit et sollicite beaucoup de notes, rencontre et parle avec beaucoup de gens, est submergé visiblement tous ces derniers jours de conseils contradictoires, mais il adore ça, m'a dit l'un de ses interlocuteurs. Et donc la question qui se pose, c'est quand va-t-il prendre la parole ? Emmanuel Macron a dit hier, je parlerai au début de la semaine prochaine et je ne dirai pas tout d'un seul coup, a-t-il précisé. Alors le schéma qui tient la corde, mais évidemment ça peut changer, ce serait une intervention solitaire et solennelle à l'Elysée, par exemple dimanche soir ou lundi soir, suivie d'une explication plus longue dans une interview. Emmanuel Macron a assez envie pour l'instant de s'exprimer dans la presse quotidienne régionale, un ou plusieurs journaux, parce que ça lui paraît correspondre à ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes. Des télés, des radios ne sont pas exclus. Je me suis dit, Nikos, que s'il a envie de venir un matin de la semaine prochaine, il est bienvenu.
Malentendu. Hein, voilà, sur un malentendu, sur un malentendu, monsieur le président, vous étiez là, allez-y.
Voilà, voilà, monsieur voilà. Macron, vous ouvrez la porte, asseyez-vous, il y a un micro et on a quelques questions à vous poser. Alors, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il va dire. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Édouard Philippe lundi, c'était la restitution. Vous savez, Édouard Philippe avait beaucoup parlé de la fiscalité, il avait notamment dit ceci.
Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts.
Eh bien, Emmanuel Macron ne dira pas ça. parce qu'il n'a pas aimé la tonalité trop fiscaliste de l'intervention du Premier ministre. C'était la seule chose qui était restée. L'expression « immense exaspération fiscale », ça lui a à moitié plu à Emmanuel Macron. D'accord. C'était trop centré sur les impôts, a-t-il dit mardi à quelques-uns de ses interlocuteurs. Alors, il devrait malgré tout, Emmanuel Macron, parler de la fiscalité, mais pour parler plutôt de justice fiscale que de baisse des impôts. Si vous saisissez la nuance, vous avez la distance entre le président de la République et le Premier ministre sur cette question. Le président de la République veut aussi beaucoup parler d'urgence climatique, il l'appelle comme ça, et je ne sais pas ce que ce sera, je ne sais pas comment ce sera financé, mais il veut annoncer des choses fortes et ambitieuses en la matière. Il a été marqué, il le dit souvent, par les propos qu'il a entendus lors des débats auxquels il a participé dans le cadre de ce grand débat, un peu partout en province. Il a été marqué par la persistance des demandes en matière de services publics, de proximité, santé, éducation, notamment là aussi, il voudrait faire des annonces. Comment les financer, ça reste la question, et je crois qu'on travaille beaucoup dans son entourage là-dessus. Et puis, il veut parler des exigences démocratiques, il les appelle comme ça, exemplarité, transparence, expression des citoyens. On reparlera sans doute du référendum. Ça ne veut pas dire qu'il en sera organisé. Donc une intervention très complète, importante du point de vue d'Emmanuel Macron, bien sûr. Il s'agit pour lui de relancer le quinquennat. Stop ou encore, il joue très gros Emmanuel Macron et il se prépare très minutieusement à cette intervention au début de la semaine prochaine.
Et vous aurez l'occasion de revenir sur cette intervention lors des jours à venir. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy.
On passe à l'économie Nikos avec la Caisse d'épargne qui vous présente le Zoom Eco. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Axel de Tarlé, le droit européen est tatillon, mais il séduit le monde des affaires. Pourquoi ?
Eh bien oui, parce qu'en Europe, on respecte des choses toutes simples, comme la présomption d'innocence. Alors ça paraît tout bête, mais on se rend compte que c'est précieux. Le monde des affaires se rend compte que c'est précieux. On pense bien sûr à Carlos Ghosn, dont le traitement a été jugé hier d'inqualifiable par le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui, sur CNews, s'est dit scandalisé de voir que Carlos Ghosn se retrouve à nouveau en prison parce que, dit-il, on veut simplement l'empêcher de parler, l'empêcher de se défendre. Alors évidemment, cette affaire Carlos Ghosn n'est pas sans conséquence sur l'attractivité économique du Japon. Geoffroy Roux-de-Bézieux le dit, cela va dissuader beaucoup d'entreprises, beaucoup de cadres, beaucoup de patrons d'aller au Japon. Et il ajoute, tout cela nous rappelle l'intérêt de faire des affaires en Europe, un continent où, dit-il, on a heureusement une justice avec des droits de la défense.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le respect du droit est finalement un atout économique aussi pour l'Europe ?
Eh bien voilà, c'est même un atout capital. Regardez ce qui se passe dans la 5G, vous savez, cette nouvelle norme de téléphonie mobile. Les Américains sont en train, sur leur territoire, de s'équiper partout d'antennes et d'équipements européens. Ils ont choisi le Finlandais Alcatel Nokia et le Suédois Ericsson. Pourquoi ? Alors non pas parce que le matériel européen est moins cher ou plus performant, non, mais avec les Européens, on peut avoir confiance. Alors qu'avec du matériel ou des antennes du chinois Huawei,
par exemple, ouais,
les Américains, vous savez, craignent d'être espionnés par Pékin. Voilà le succès des Européens. De même, Microsoft a des ennuis en Chine en ce moment. Pourquoi ? Eh bien, on accuse Microsoft d'aider le gouvernement chinois dans son programme, vous savez, de reconnaissance faciale, là, qui vise à surveiller les opposants politiques. Alors qu'à l'inverse, on le voit, travailler en Europe, travailler avec des Européens, c'est beaucoup plus rassurant. On sait qu'on est dans un espace où l'on respecte des règles. Oui, c'est un atout très puissant dans la mondialisation. Et le message est aussi simple qu'efficace. Investissez en Europe, vos droits élémentaires seront respectés.
Merci beaucoup Axel de Tarlé, mais quand même on investit en Europe et en même temps Donald Trump répondant justement...
Ah, ça n'empêche pas la guerre commerciale, mais au moins...
Aux négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne menace.
Ça n'empêche pas les batailles commerciales, mais du point de vue du droit, les Américains reconnaissent qu'ici, il n'y a pas de problème. On est un état de droit où on peut se faire entendre et on ne vous jette pas en prison sans preuve.
Zoom Echo. C'est présenté tous les jours par Axel de Tarlé.
C'était le Zoom Eco avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bagarre, maltraitance, perspective d'avenir incertaine. La République ne sait plus s'occuper des enfants placés. Un SDF sur 4 est un ancien enfant de la DAS. Dans un instant, je reçois la députée La République En Marche, Perrine Goulet. Elle est rapporteure de la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance. Et elle démarre ses travaux aujourd'hui.
Il est 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
La loi anti-casseurs promulguée par Emmanuel Macron. Hier, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, avait indiqué qu'il n'y aurait pas de deuxième délibération au Parlement. La réaction menaçante de Donald Trump après un nouveau report du Brexit fixé au 31 octobre. Dommage que l'Union européenne soit si dure avec le Royaume-Uni, a-t-il dit dans un tweet, avant de compléter de la même manière, l'Europe est un partenaire commercial brutal avec les États-Unis. Et ça va changer. Fin de citation. Les retraités dans la rue aujourd'hui, nouvelle manifestation pour réclamer l'annulation de la hausse de la CSG et la revalorisation des pensions.
Europe 1.
Un SDF sur quatre est un ancien enfant de la DAS. Preuve que le dispositif appelé aujourd'hui aide sociale à l'enfance fonctionne mal. Nikos, vous recevez ce matin la députée La République En Marche, Perrine Goulet. Elle-même ancienne enfant placée, elle est rapporteure à l'Assemblée nationale de la mission d'information sur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance.
Ça s'appelle l'ASE maintenant, avant c'était la DAS. Bonjour Perrine Goulet.
Bonjour Nikos Aliagas.
Aujourd'hui, 341 000 mineurs font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. Oui. La moitié environ grandit en foyer ou en famille d'accueil. On les place pour qu'ils aient une vie meilleure, de perspectives plus positives. Mais en réalité, pour un grand nombre d'entre eux, c'est le calvaire qui continue. Pourquoi ?
Mais en fait, cette politique de protection de l'enfance dysfonctionne tout au long du parcours. Elle dysfonctionne sur la détection, puisqu'on a encore un enfant qui est violé toutes les heures, donc ça commence déjà mal au
départ. Un enfant violé toutes les heures, vous nous dites ce matin, en France.
Oui, en France.
Violé toutes les heures.
Ah oui, c'est les chiffres, bien sûr. Un enfant violé toutes les heures. Donc on voit bien que la détection des maltraitances débute déjà mal, puisqu'on n'arrive pas à éradiquer ce chiffre. Et après, effectivement, on se rend compte que tout au long du parcours, même placé dans les foyers, ça ne fonctionne pas. Des ruptures de parcours, ce qui fait qu'ils perdent confiance en eux. Donc des difficultés pour suivre la scolarité. On sait que 2 enfants sur 3 qui arrivent en 6e ont déjà un an de retard quand ils sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Et donc tout ça va continuer par la suite jusqu'à la sortie qui est mal accompagnée, puisque comme vous l'avez dit, et selon le dernier rapport effectivement de la Fondation Abbé Pierre, 28% des SDF ils sortent de l'aide sociale à l'enfance.
On ne peut pas empêcher les violences dans les centres d'accueil, c'est ce que vous nous dites, il y a pourtant des éducateurs.
Alors il y a un problème à mon avis de contrôle, et c'est pour ça que la mission, j'ai demandé à ce qu'elle soit mise en place, c'est pour arriver à comprendre pourquoi cette petite dysfonctionne du début à la fin. Visiblement il y a des problèmes de contrôle sur les infrastructures, des problèmes aussi pour les éducateurs, parce que j'ai rencontré moi auparavant des éducateurs en difficulté, puisqu'ils sont pas assez nombreux. Parfois donc, pas accompagné non
moyens,
plus.
Problème de moyens, en fait.
Moyens ou mal
et
organisés.
Oui.
Oui, parce qu'il y a certains départements où ça se passe bien. Donc, il faut aller comprendre pourquoi des départements y arrivent, pourquoi des D'accord. départements n'y arrivent pas.
Alors, c'est un dossier que vous connaissez bien, Perrine Goulet, parce que vous-même, vous avez grandi dans un foyer de la DAS avec votre petit frère après le décès de votre maman. Et c'est parce que rien n'a changé que vous avez voulu vous exprimer sur le sujet, parce que ça reste aussi un sujet tabou.
Effectivement, quand j'ai commencé mon mandat, je ne pensais pas le révéler. Mais au fil des auditions depuis un an, et devant effectivement la constatation que rien n'avait changé, j'ai estimé que peut-être pour faire bouger les choses, il fallait...
Vous avez pris la parole pour ça.
Oui, pour ça, oui. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir autant d'enfants cassés dans notre pays, c'est pas possible.
Oui, mais c'est moralement inacceptable, et pas seulement. Comment vous avez réussi à vous en sortir ? Vous avez réussi à vous en sortir ?
Moi, j'ai eu la chance d'être récupérée à mes 18 ans par les parents de mon ex-mari qui m'ont accompagnée. Mais sinon, je pense que je serais peut-être à la rue comme d'autres. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Donc on voit bien que des fois, ça ne joue à pas grand-chose. Et ce n'est pas normal que ça ne joue à pas grand-chose.
Pourquoi à la rue comme d'autres ? Pourquoi ces chiffres ? Pourquoi 70% des jeunes qui sont placés sortent du dispositif sans diplôme ? Parce qu'on ne s'intéresse pas à eux, on ne veut pas qu'ils fassent des études.
Écoutez, quand on sait que seulement 5% d'une classe d'âge fait un lycée, pour ceux qui sont dans l'ASE, alors que dans le pays c'est 49%, enfin, on voit bien que rien que là, déjà il y a des difficultés. Alors effectivement, comme on n'a pas envie de leur payer un contrat jeune majeur, on les oriente effectivement sur des diplômes plutôt CAP, BEP, quand ils arrivent à l'obtenir.
On les pousse à être autonomes en fait, à sortir du système,
mais on ne les prépare pas à être autonomes. On ne les prépare pas à savoir rédiger un CV, on ne les prépare pas à aller à la CAF pour demander un logement, pour demander les aides au logement, enfin, on n'accompagne pas. Ben, qui laisserait son enfant du jour au lendemain à 18 ans à la rue en disant « tu te débrouilles ?» C'est pas possible, enfin, en tant que parent, c'est pas possible. Mmh. Et pourtant, c'est ce que l'État, et plutôt les départements, parce que c'est les départements, il ne faut pas oublier, ce n'est pas l'État, c'est les départements qui ont cette politique. C'est ce que les départements font.
Mmh. Eux disent c'est un nouvel abandon.
Bien sûr, c'est un nouvel abandon. Et ils en ont déjà vécu plusieurs, puisque souvent, ils ont fait plusieurs familles d'accueil. À chaque fois, c'est un abandon. Et à 18 ans, effectivement, on les laisse tout seuls. Donc, comment voulez-vous que ces enfants se construisent par la suite ? C'est pas possible.
Qu'est-ce que vous préconisez, vous, Perrine Goulet ? Il y a cette histoire de contrat jeune majeur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Alors, le contrat jeune majeur, c'est une obligation faite au département d'accompagner les jeunes jusqu'à leurs 21 ans. C'est dans le projet de loi déposé par Brigitte Bourguignon qui devrait être enfin mis à l'ordre du jour le 6 mai de l'Assemblée nationale. Donc on va enfin pouvoir regarder cette problématique-là. Mais peut-être pour moi, 21 ans, pourquoi 21 ans ? Un enfant qui veut faire 4 ou 5 ans d'études, 21 ans, elles ne sont pas finies. Donc je pense qu'il faut aller plus tôt vers un accompagnement jusqu'à l'insertion de ces enfants.
Il y a un problème de financement ?
Alors, bien sûr que derrière, il y aura des financements, mais pas que. Les départements peuvent orienter la politique, vous le savez, en fonction de leur budget, ils peuvent orienter sur telle ou telle ligne budgétaire. Je pense qu'il faut que les départements pensent que maintenant, investir en protection de l'enfance, c'est gagner de l'argent derrière en insertion et en réinsertion.
D'une certaine façon.
Il faut basculer, pour moi, des crédits des départements vers cette protection de l'enfance.
Constatez encore qu'il y a toujours des problèmes quand on a grandi comme vous dans un foyer de la DAS. Ça fait mal au ventre, ça vous met en colère. Ça dit quoi de notre société aujourd'hui, Perrine Goulet ?
Ça dit que ces enfants ne sont pas électeurs et que ce n'est pas une priorité de regarder.
C'est honteux.
C'est honteux. Et c'est bien pour ça que, malgré mes difficultés à en parler, je me suis dit qu'à un moment, il fallait ressortir les choses. Parce que moi, je m'en suis sortie. Mais quand on regarde le parcours avec grande difficulté quand même si je n'ai pas fini à la rue, n'ayant pas été traité psychologiquement, il y a également des problématiques dans la vie d'adulte. Bien sûr qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas les violences vécues dans les foyers, ça nous construit, mais ça aussi nous pénalise. J'ai une hypersensibilité accrue. Ça produit des effets derrière. Et c'est hyper important qu'on regarde la réalité en face, qu'on regarde pourquoi cette politique dysfonctionne et qu'enfin, on mette les moyens pour régler ces problématiques.
Mais aujourd'hui, vous êtes député, vous êtes rapporteur de la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance. Votre voix va porter davantage. Et à partir d'aujourd'hui, c'est un acte pour ce que les autres vivent aujourd'hui et peut-être aussi pour l'enfant que vous avez été. C'est un acte que vous marquez d'une pierre blanche aujourd'hui.
J'espère. Et on commencera les auditions justement par des anciens enfants placés aujourd'hui.
Merci d'avoir été avec nous, Perrine,
merci beaucoup.
Perrine Goulet.
Merci.
Nikos
Aliagas sur Europe 1.
N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 et au téléphone au 3921. On va continuer à parler du Brexit ce matin avec l'Europe qui accorde un nouveau report. Cela se passera le 31 octobre. Et puis dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. Un trou noir pour la première fois photographié. Et à l'origine de cette prouesse scientifique, une femme.
Il est 7h56, l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
On ne parle que du trou noir depuis 48 heures, mais derrière cette prouesse scientifique, une femme.
Alors, entre nous, on se demande ce qui peut lui donner un tel sourire à Katie Bowman, parce que franchement, le décor autour d'elle, les amis, c'est plutôt du genre grosse déprime. Un labo de recherche, tristoun, minuscule, comme un labo de recherche avec des murs blancs, un tableau, pas de fenêtre et une lumière bien blafarde. Mais l'essentiel est ailleurs, sur l'écran de l'ordinateur portable de Katie. Là, en tout petit dans un coin, une image de trou noir, oui, le trou noir qui passionne le monde depuis 24 heures. Et c'est un peu son histoire à Katie Bowman. 29 ans, américaine, chercheuse en informatique, chef de projet. C'est elle qui a trouvé l'algorithme indispensable à ce moment d'histoire. Alors je vous raconte pas les années de calcul, d'équations, de prise de tête. Et la voici émue, au bord des larmes, les mains sur le visage. Longtemps, très longtemps, Katie Bowman a dû garder le secret au fond de son labo avant la publication officielle. Même ses parents n'étaient pas au courant du résultat. Depuis hier, la jeune femme est devenue une sorte d'héroïne, d'exemple. 30% de femmes chercheuses dans le monde, 30% seulement. Mais Katie Bowman, elle la joue modeste, elle préfère parler collectif, travail d'équipe. Pour terminer les amis, on va l'écouter un instant parce que vous savez quoi ? Il y a autre chose qui me la rend très sympathique, c'est que dans une même conférence, la jeune scientifique peut vous citer Albert Einstein, ok, mais aussi les Rolling Stones, écoutez.
Magnifique.
Comme dirait Mick Jagger, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais si on s'en donne la peine, on obtient ce qu'il faut. You can't always get what you want.
Je suis définitivement accro à votre brique. Jean-Philippe Ballas sur Europe 1, la petite histoire qui fait du bien.
À suivre le journal de David Doucan. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Qu'est-ce qu'on ferait sans Laurent Cabrol ? Pas grand-chose.
Déjà,
on ne sait pas comment s'habiller sans vous.
Bah écoutez...
Tous nus sans vous.
Aujourd'hui, c'est vraiment très marqué hein, entre le nord et le sud. Céline vous en parle depuis ce matin. Mais tout se confirme à savoir que le soleil est là sur le centre, les Pays de la Loire, la région parisienne, Champagne, Ardennes, Bourgogne, Lorraine, Alsace, Bretagne, Normandie, Nord-Picardie, là, partout. Il fera beau, hein, y compris sa capitale, bien sûr. Mm-hmm. La Franche-Comté, l'Auvergne, le Limousin, la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes du Nord, il pleut ce matin, mais nous allons vers une amélioration. Les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse, de plus en plus orageux. Là, ça se gâte dans ce secteur de la France. Sur le Midi-Pyrénées, attention également des orages. Sur le Languedoc-Roussillon et la Provence, du vent. La neige à partir de 1600 mètres dans les Alpes. La neige à partir de 1300 mètres dans les Pyrénées. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à dire. La zone orageuse est encore là. Demain, baisse des températures. Et le congé de fin de semaine s'annonce vraiment, vraiment, vraiment très froid. Pour la saison, bien sûr. Nous allons descendre à des moins 4, moins 5, peut-être moins 6. Espérons qu'on n'ira pas plus loin. Mais en tout cas, c'est l'en vivre dans la nuit de vendredi à samedi, et surtout de samedi à dimanche et de dimanche à lundi, tous les dangers en matière de gel dans nos régions et en particulier sur la moitié nord.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Merci pour votre fidélité, merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
David Doucan aux commandes pour le journal de 8h. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, David.
Nouvelle date butoir pour le Brexit, le 31 octobre, le jour d'Halloween, pour mettre fin au cauchemar. Notre spécialiste des questions européennes nous explique tout dès le début de ce journal.
Et à 8h12, juste après le journal, l'analyse de Vincent Hervouette.
L'événement politique, c'était hier soir sur Europe 1 et CNews. Le débat des élections européennes. Dans un instant, nous vous raconterons les coulisses, tout ce qui s'est passé hors micro. Récit savoureux à suivre. Et enfin, si vous avez mis le nez dehors, vous l'avez forcément remarqué, il fait froid. Reportage dans un instant, nous serons avec vous et nous grelotterons ensemble.
8h15, les marcheurs de gauche qui s'organisent. Audrey Crespo-Mara reçoit l'avocat Jean-Pierre Mignard.
Europe 1. Report du Brexit accordé, compromis dans la plus pure tradition bruxelloise, en pleine nuit à 3h du matin. La nouvelle date fixée, c'est le 31 octobre. Theresa May a précisé que cela pourrait être avant, si possible. Notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry, a suivi ce sommet extraordinaire pour Europe 1. Écoutez son compte-rendu au terme duquel vous aurez tout compris.
Mais pourquoi choisir la date d'Halloween comme nouvelle échéance pour le Brexit? C'est la question qui intriguait de nombreux journalistes fatigués cette nuit. Officiellement, le 31 octobre, c'est parce que c'est la veille de l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne. En réalité, c'est surtout parce que certains pays voulaient beaucoup plus et d'autres, dont la France, nettement moins. Donc, dans un compromis très européen et pas très lisible, les 27 ont coupé la poire en deux. Donald Tusk, le président du Conseil européen, veut croire que ce délai sera utile aux Britanniques.
Laissez-moi finir avec un message pour nos amis britanniques. Cette extension est aussi flexible que ce que j'espérais, mais un peu plus courte que ce que j'attendais. Mais c'est assez pour trouver la meilleure solution possible. S'il vous plaît, ne gaspillez pas ce temps.
À tout moment, d'ici là, le Royaume-Uni pourra sortir s'il vote l'accord de retrait, déjà rejeté 3 fois par son Parlement. Mais s'il n'y arrive pas avant la fin mai, alors il faudra organiser les élections européennes et envoyer des élus britanniques siéger au moins quelques mois au Parlement européen, ce qui semble carrément surréaliste. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Et comme Isabelle vient de nous le dire, Emmanuel Macron aurait préféré un délai encore plus court, mais il se satisfait de ce compromis. Écoutez le président de la République.
C'est vrai que la position majoritaire était plutôt de donner une extension très longue. Mais à mes yeux, ça n'était pas logique. Et surtout, ça n'était ni bon pour nous, ni bon pour les Britanniques. Parce qu'une extension longue aurait donné le sentiment que, entre nous, on pouvait décider de ne pas tenir compte du vote fait il y a maintenant près de 3 ans par le peuple britannique. Et nous aurions décidé d'affaiblir nos institutions. Et donc, j'assume en effet ce rôle, mais je pense que c'est pour le bien collectif.
Emmanuel Macron avec Jean-Rémy Baudeau. A noter la réaction de Donald Trump. Quelques heures après la fin du sommet, le président américain a tweeté, je cite, « Dommage que l'Union européenne soit si dure avec le Royaume-Uni. De la même manière, l'Europe est un partenaire commercial brutal avec les États-Unis. » Et il conclut menaçant « Et cela va changer ».
Les échanges ont été vifs et nombreux, David.
Vous parlez de l'événement politique. Eh c'était oui. Hier soir, le débat des européennes sur Europe 1 et CNews. Pendant 3 heures, on a bien perçu les différences de vues sur tous les sujets. Mais que s'est-il passé une fois les micros éteints? Le récit d'Aurélie Herbemont.
Ils ne t'ont pas lâché 3 secondes, glisse une marcheuse à Stanislas Guérini qui l'admet, ça poussait, l'obligeant à être sur la défensive. À la sortie, on se distribue les bons points. Socialistes et écologistes n'ont pas réussi à faire liste commune, mais ils se félicitent mutuellement. « Bravo mon grand », lance David Cormand à Olivier Faure, qui réplique au vert « Tu as été très bien ». L'autre figure de gauche, c'était l'insoumis Adrien Quatennens. Un de ses camarades est ulcéré que le débat ait été vampirisé par l'immigration, mais satisfait de la prestation de son collègue, qui a aussi séduit Nicolas Dupont-Aignan. Quatennens a été bon, structuré, vante le candidat de Debout la France. Il a moins aimé que Marine Le Pen lui donne du Nicolas pendant tout le débat. Manière de rappeler leur alliance passée. La présidente du RN, pas mécontente que le débat soit enfin fini, fait déboucher le champagne dans sa loge. Son voisin, Laurent Wauquiez, a déjà filé depuis longtemps, mais ses proches sont très contents, persuadés que le patron de LR a fait la différence sur le pouvoir d'achat et le régalien.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. La loi Pacte va être définitivement adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte de Bruno Le Maire vise à faciliter la vie des entreprises. Il prévoit aussi des privatisations, dont celle d'Aéroports de Paris. Sur ce point, vous le savez, une procédure de référendum a été enclenchée par près de 250 parlementaires d'opposition.
Information Europe 1, nous vous dévoilons le bilan du plan national de prévention de la radicalisation ce matin.
Oui, il avait été lancé il y a un an par le gouvernement. 12 mois plus tard, Édouard Philippe va présenter les premiers résultats aujourd'hui en déplacement à Strasbourg. Mais Théo Manval en connaît déjà les grandes lignes.
En un an, les services de l'État ont fait fermer 4 écoles privées hors contrat, 7 lieux de culte et pas moins de 89 débits de boissons devenus lieux de rendez-vous de personnes radicalisées. Matignon revendique une mobilisation toute particulière dans l'éducation puisque l'État a aussi empêché 15 nouvelles ouvertures d'écoles privées pour dérives radicales. Mais l'entourage du Premier ministre reconnaît qu'une grande partie du travail de prévention doit encore se faire. En prison, les effectifs du renseignement pénitentiaire sont en train d'être augmentés de près de 30%. Objectif, avoir des agents l'an prochain dans chaque prison de France. Et pour mieux comprendre l'évolution, les trajectoires de chacun jusqu'au passage à l'acte, des chercheurs seront aussi mis à contribution. Ils auront accès à 11 000 fiches de personnes suivies pour radicalisation à caractère terroriste. C'est comprendre pour mieux anticiper, avance-t-on à Matignon, où Édouard Philippe souhaite aussi intégrer cette prévention de la radicalisation dans le futur Service national universel.
Les informations de Théo Manval pour Europe 1. Jean-Marie Le Pen va aujourd'hui être jugé pour détention illégale de plusieurs armes découvertes en janvier 2015 à son domicile. Un lanceur de balles de défense, des pistolets semi-automatiques, un fusil de chasse et un revolver américain. Son avocat parle, je cite, d'une affaire de corne-cul.
Europe 1.
À suivre dans le journal, ne rangez pas tout de suite la doudoune, elle peut servir. Gla gla gla, c'est le retour du froid. Bravo. Alors là, on grelotte ce matin sur le chemin du travail, n'est-ce pas, David?
Absolument, je confirme.
Ce matin, vous aviez froid, hein,
oui,
en pleine nuit.
J'étais pas bien.
Moi aussi.
Ouais,
pareil. Tout de suite. Voilà, voilà.
Votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec David Doucan. Et c'est vrai que Laurent Cabrol, depuis 6h du matin, nous le dit, le retour du froid.
Oui, comme vous le disiez, avec un sens de l'à-propos hors du commun, gla gla gla. Et effectivement, c'est ce que vous avez dit avant la publicité. Nous sommes solidaires, Nikos. Aude Vernuccio est allé grelotter avec vous, garde Saint-Lazare à Paris et Clermont en ce mois d'avril. C'est un coup dur pour nous tous.
J'ai une bronchite, j'arrive même pas à la soigner. On se couvre, on se découvre, on se recouvre, on se redécouvre et puis bah voilà. On prévoit l'écharpe, le manteau, j'ai encore la petite paire de gants dans le sac à main. On part au travail, il fait nuit, on sort, il fait gris.
Je galère pour m'habiller, oui, tous les matins. Là, je prends beaucoup de temps, oui. Après, je suis en retard et je cours pour avoir mon train.
Vous savez combien il fait ce matin ? 5 degrés.
Ah oui, quand même ! C'est complètement déréglé en fait. Je crois qu'en février, on a eu un moment où il a fait très beau, très chaud et tout. Donc là, déjà que même sans ces problèmes-là, je me dis tous les soirs, bon, qu'est-ce que je vais me mettre demain et tout. Donc c'est compliqué, oui, effectivement.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ?
Une bonne journée en espérant qu'on ait un peu de soleil cet après-midi.
Propos désabusés recueillis par Aude Vernuccio pour Europe 1.
Astérix et Obélix ont 60 ans cette année.
Absolument, et à cette occasion, le titre du 38e album a été révélé hier. Il s'agit de La fille de Vercingétorix. Cela ne sortira qu'en octobre prochain. Nous ne disposons à ce stade que de très peu d'informations, mais Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1 a enquêté. Et sachez-le, l'intrigue se déroulera dans le village gaulois.
C'est une tradition et pas question d'y déroger. Les aventures d'Astérix se déroulent alternativement dans le village gaulois et hors du village. Et après Astérix et la Transitalique, parue il y a 2 ans et qui se déroulait en Italie, nos Gaulois sont donc de retour chez eux. Ils vont accueillir dans leur village la propre fille de Vercingétorix, une adolescente à fort caractère. Voilà, on n'en saura pas plus pour l'instant. Ah si, ce qui est sûr, c'est que dans cette nouvelle aventure, Astérix et Obélix restent les vrais héros. Jean-Yves Ferry est le scénariste de La fille de Vercingétorix.
Moi, j'aurais tendance à faire, si je pars sur La fille de Vercingétorix, une sorte d'album original
et d'oublier Astérix. En fait, non, il faut toujours revenir à eux. Et ça, Goscinny savait bien le faire, c'est-à-dire leur laisser le leadership, quoi.
Donc ça reste une aventure d'Astérix et Obélix.
Voilà. Et d'Idéfix, parce qu'il m'était arrivé d'oublier un peu Idéfix et on assume le rappeler.
Sorti en fanfare le 24 octobre prochain, 60 ans pratiquement jour pour jour après la naissance d'Astérix et Obélix.
Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1, il ne faut pas oublier Idéfix.
Jamais. Et j'ai toujours une pensée amicale pour M. Uderzo qui nous écoute souvent.
Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre une espèce humaine. Ce nouveau cousin de l'Homo sapiens vivait aux Philippines il y a plus de 50 000 ans. Il s'appelle Homo luzonensis. Cet homme présente la particularité d'être un très bon grimpeur. Il a été découvert par une équipe de paléo-anthropologues franco-philippines. Et un mot de Ligue des Champions.
Allez-y.
Football, quart de finale. Allez, hier soir, Barcelone est allé battre Manchester United 1-0. L'Ajax d'Amsterdam recevait la Juventus de Turin. Match nul, un partout.
Merci David Doucan. Pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag
Europe 1. Oui, c'est vrai, beaucoup de réactions suite à votre interview de Perrine Goulet, hein, la députée rapporteure de la mission parlementaire sur l'aide sociale à l'enfance. Les auditeurs ont été vraiment touchés par son témoignage. Son interview, je vous le rappelle, est à retrouver sur Europe1.fr. Et puis vos photos qui continuent d'arriver. Hubert nous envoie une photo du ciel gris à Saint-Étienne. Olivier, lui, est du côté de la Sicile où il fait assez beau. Une très
magnifique
jolie photo.
Oui, ouais,
oui. Et puis Adeline, elle nous tweet simplement le ciel bleu de Paris. Continuez à réagir, à nous envoyer vos photos. On adore ça avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale, comme chaque matin avec Vincent Hervouet, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous.
Cette nuit, le Conseil européen extraordinaire a finalement donné un nouveau sursis aux Britanniques pour sortir.
Oui, il faut détester les Britanniques comme un bonapartiste pour imaginer qu'ils l'ont fait exprès. Mais le dîner des 27 dirigeants européens aurait de quoi dégoûter les électeurs d'aller voter le mois prochain. Comment faire confiance à des gens qui répète depuis 2 ans que le divorce aura lieu le 29 mars à 23h GMT, qui ricane ou tempête en montrant le sanglier qui se vide, qui accepte de mauvais gré de retarder au 12 avril le rendez-vous fatal, et le 11 au soir hausse les épaules et décide d'attendre 6 mois de plus, 6 mois et demi de plus. Mmh. Comment supporter cette machine infernale à 27 tuyaux qui ne peut jouer qu'une seule note? C'est la règle de l'unanimité. Et cette note, c'est toujours le mi de compromis, de mi-chèvre, mi-chou, une machine faite pour ne rien décider. Alors, ça fait 3 ans que le Brexit barre l'horizon, qu'il repousse au calendrier grec toute réforme. Ça va durer 29 semaines supplémentaires. Ou peut-être plus, ou peut-être pas. Les europhiles, forcément optimistes, trouvaient une consolation dans l'unité des 27 dans l'adversité. C'était surtout de la passivité. Hier soir, bas les masques. Emmanuel Macron a brandi le fouet face à Theresa May suppliante, alors qu'Angela Merkel et Donald Trump l'entouraient, le mercurochrome et le Lexomil à la main.
Et les Britanniques devront se conduire, selon les termes évoqués, de façon constructive et responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Of course ! Mais ils gardent leur droit de vote au Conseil, leur droit de veto, leur place au Parlement. Ils n'ont aucun plan crédible et ils restent maîtres du calendrier. Ils ne garderont peut-être pas Theresa May. Le suivant fera à sa guise. Les Français mesurent leur solitude. Le mois dernier, Emmanuel Macron promettait un Brexit sans accord si les députés britanniques ne votaient pas de façon positive, c'est-à-dire dans un sens ou dans l'autre. On attend toujours. Hier, le président a juré « 34 mois, ça suffit ». Entre la poire et le fromage, il s'est ravisé. Il avait 1000 bonnes raisons de ne pas utiliser son droit de veto. Mmh. Ça fait 1001 raisons à l'électeur de rester chez lui. Sauf, évidemment, les Brexiteurs les plus coriaces. Ils vont réélire l'impayable Nigel Farage. Il va retrouver ses habitudes à Strasbourg, son pub à Bruxelles, aux premières loges pour railler les continentaux, la faiblesse de l'Europe à laquelle il manque décidément les 3 C.
Qu'est-ce que c'est ?
Le cerveau, le cœur... Et surtout, le caractère.
Un quatrième compris. Merci Vincent Hervouet pour l'édito international.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans 2 minutes, l'interview politique avec vous, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Audrey.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Qui est votre invité ?
Il est avocat, proche d'Emmanuel Macron, après avoir été proche de François Hollande. Et il est celui qui est bien décidé à rappeler au gouvernement, et on verra comment, que dans le « et en même temps de droite et de gauche », il y a de gauche. Jean-Pierre Mignard sera mon invité.
On pourra suivre aussi l'interview en direct sur Europe1.fr. Le jaune, vous y est bien.
Oh, merci, Nico.
Tout de suite.
A tout de suite sur Europe 1 avec Nico Saliagas. Il est 8h15.
Europe 1.
Il est 8h17, Nico Saliagas.
L'avocat Jean-Pierre Mignard, proche d'Emmanuel Macron, et votre invité Audrey Crespo-Marail lance un club de réflexion pour rassembler la gauche au sein de La République En Marche.
Exactement. Bonjour Jean-Pierre Mignard.
Bonjour.
Alors vous lancez ce club effectivement de réflexion pour rassembler la gauche de La République En Marche. Pourquoi avoir baptisé ce club Hyperion ?
Parce que c'est un titan sympathique. D'abord, le travail est titanesque, donc voilà, c'est un titan, oui. C'était bien. Alors, c'est aussi le soleil. Alors, ça, c'est un peu prétentieux. C'est celui qui est au-dessus, qui éclaire, voilà. On cherche.
Alors, vous fondez ce club avec le député La République En Marche, Aurélien Taché, qui oui. affirme que le but est de faire contrepoids aux ministres venus de la droite. Le premier d'entre eux, Édouard Philippe, et les hommes de Bercy, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Vous trouvez que la politique du gouvernement est trop à droite ?
Ouais, je veux dire, la politique du gouvernement est trop à droite. C'est très difficile à la situer, puisque dans les derniers mois, on a eu effectivement la crise des Gilets jaunes, crise sociale grave, donc qui effectivement a beaucoup modifié l'ordonnance de ce qui avait été prévu. Mais ça, c'est la vie politique. C'est imprévisible. Je pense en effet que... Mais ça, nous le disons bien dans notre interview, il y a toute une série de mesures qui ont été prises à l'origine, où il y a à la fois des mesures de protection sociale, des mesures d'avantage social, et puis il y a des mesures qui sont apparues comme des injustices fiscales. C'est surtout la chronologie des mesures qui semble pas avoir répondu à une réflexion politique suffisante.
Donc une politique trop à droite.
D'une politique qui peut-être résumer. Jusqu'ici n'avait pas pris en compte la situation de grande détresse sociale dans laquelle une partie de la population française s'est trouvée, ce qui a expliqué la crise sociale.
Jean-Pierre
ce qui
Mignard...
nous a amené à prendre le grand débat par la suite.
Illustration, Emmanuel Macron avait promis de ne pas reculer l'âge du départ à la retraite et pourtant, ces derniers jours, Gérald Darmanin a proposé de revenir sur cette promesse. Ça vous a sûrement choqué.
Il a surtout dit il ne faut pas aggraver le déficit, il ne faut pas aggraver la dette.
Enfin, il a surtout dit que 62 ans l'âge pivot, on pouvait peut-être le reculer.
Que le ministre des Comptes publics dit « Trouvez la solution que vous voulez, mais à condition qu'on n'augmente pas la dette et que le déficit ne soit pas creusé », je pense que sur ce point, on ne peut pas lui faire reproche, il est dans son rôle.
Mais pendant la campagne d'Emmanuel Macron, vous étiez le président de son comité d'éthique.
Oui.
Est-ce que ce serait conforme à l'éthique de trahir une promesse de campagne, de ne pas toucher aux 62 ans ?
Sur ce point, dès lors que c'est une conviction politique, qu'elle est sincère et qu'elle est dite, ce n'est pas un problème d'éthique. Il défend une position aujourd'hui. Après tout, on peut avoir
donc
un
budget... Donc
on
peut revenir sur une promesse de campagne.
Le problème, c'est le président de la République qui décidera, c'est le Parlement, c'est les citoyens tels qu'ils le décideront. Puis n'oublions pas que sur ce sujet, Jean-Paul Delevoye était chargé, en concertation avec les syndicats, de faire des propositions.
Jean-Paul Delevoye, il est très clair, il dit on ne touche pas 62 ans.
C'est aussi ma position. Ce que nous disons aussi, il y a un âge légal, 62 ans, mettre quand même beaucoup de souplesse dans tout cela, quand même, faut pas exagérer. L'objectif, c'est comment faire cesser qu'il n'y ait pas de peur individuelle et qu'il y ait une prise en charge collective qui soit tenable. Voilà.
Jean-Pierre Mignard, les retraités sont dans la rue aujourd'hui. Édouard Philippe pourrait revenir sur sa décision d'août dernier de désindexer les pensions de retraite de l'inflation. Vous souhaitez qu'il se désavoue ?
C'est pas se désavouer, je pense que c'est un homme... Moi, je trouve très estimable dans sa manière de conduire la politique. Je trouve une intégrité intellectuelle chez le Premier ministre. Je suis pour ma part, je peut-être me trompais, mais je suis convaincu qu'il reviendra dessus.
Qu'il reviendra sur la question. Sur cette désindexation. Vous souhaitez qu'il revienne sur cette désindexation ?
Je pense sur ce point rien dans ce pays ne doit être fait qui fasse que les gens soient dans la crainte, dans la peur. Ça, c'est
donc
capital.
Donc c'est incontournable, on doit réindexer les pensions de retraite.
Je pense qu'en effet, il faut sur ce point revenir en arrière, ça me semble essentiel. Il ne faut pas que les retraités soient plongés dans la crainte. La politique, c'est d'abord cela. C'est que les citoyens ne vivent pas dans la crainte. C'est la seule manière d'ailleurs qu'ils vivent bien ensemble et que nous n'ayons pas des conflits sociaux et des drames sociaux.
Jean-Pierre Mignard, vous qui ouvrez un club de réflexion au sein de La République En Marche, voilà un bon sujet de réflexion. La privatisation d'ADP est-elle une mesure de droite ou de gauche ?
Il faudra savoir quel est le contrôle que l'État aura sur la privatisation-concession. Il faudra savoir.
Une privatisation, ce n'est pas forcément de droite.
La gauche en a fait quand même beaucoup.
Lionel
Jospin, privatisations.
France Télécom France.
Et d'ailleurs, Lionel Jospin qui était indéniablement un homme de gauche.
Donc vous n'êtes pas contre la privatisation ?
Non, la question c'est est-ce que les contrats seront respectés ? De quels moyens sera doté l'État ? Et dans quel état allons-nous retrouver l'aéroport de Paris 70 ans après ?
L'opposition a sorti une carte inédite. Hein. Elle a voté hier en faveur d'un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'ADP. Quand vous voyez les Républicains s'associer aux communistes pour combattre le gouvernement, les Républicains s'associent aux communistes, je répète, ça devrait vous prouver que droite et gauche, ça ne veut plus rien dire ?
Sur certaines questions, c'est la preuve qu'en effet, c'est un conflit qui peut être surmonté.
Et, c'est une fronde de refus.
Tous ces gens nous ont fait beaucoup le reproche d'avoir surmonté sans principe. Eux ont décidé de surmonter leur opposition sur la question d'ADP. Je vais vous dire, on peut avoir une bonne utilisation de ce qu'ils ont fait. Parce que ça peut amener aussi le gouvernement à être très vigilant, très strict vis-à-vis du concessionnaire et dire... nous n'allons pas concéder à n'importe quel prix et notre contrôle sera strict.
Vous n'êtes pas opposé en tout cas à cette privatisation?
Non, encore une fois, c'est de quel contrôle disposerons-nous? C'est la vraie question.
Jean-Pierre Mignard, hier soir, lors du débat diffusé sur Europe 1 et CNews, les Insoumis avec Adrien Quatennens et le PS avec Olivier Faure ont réclamé le rétablissement de l'ISF. Vous qui êtes de gauche, voulez-vous rétablir l'ISF?
Alors, c'est vrai que le rétablissement de l'ISF ne nuirait pas à mon sommeil. Mais encore une fois, quelle est l'efficacité du rétablissement de l'ISF ? Est-ce que c'est une mesure symbolique, vu le rapport qui était la sienne ? Est-ce que nous pouvons vivre de symboles ? Plutôt que des questions comme celle-ci, c'est quel type de croissance avons-nous ? Quel type de richesse produisons-nous ? Et comment faisons-nous pour que ce que nous appelons dans notre interview avec Aurélien Taché, les derniers de cordée soient ceux qui soient au cœur de nos préoccupations.
Est-ce que vous militez pour le rétablissement de l'ISF, tous les partis de gauche?
Moi, personnellement, non.
Sur la question de l'ISF, Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez sont exactement sur la même ligne. Ils refusent de le rétablir. Vous êtes sûr qu'Emmanuel Macron n'est pas de droite?
Je pense qu'il n'est pas de droite. Je pense en effet qu'il serait, comme on pourrait le qualifier plutôt, un social-libéral, de ces gens qui, par exemple, ça s'appelle Clinton... Schröder, Blair, ou des positions que pouvait avoir aussi Dominique Strauss-Kahn, même quelquefois Ségolène Royal, qui était très pragmatique sur des sujets sur lesquels elle choquait sa propre famille. C'est qu'est-ce qui est efficace, mais à une condition. C'est que tous ceux qui sont dans les situations sociales les plus exposées soient au cœur de notre préoccupation. C'est ça qui compte. Efficace et d'abord pour eux.
Mais Jean-Pierre Mignard, si on admet qu'il n'y a pas la moindre divergence, ce qu'on nous explique, entre le Premier ministre et le Président, puisqu'Édouard Philippe est de droite, ça veut dire qu'Emmanuel Macron est lui aussi de droite.
Ah ben ça, je vous trouve quand même extrêmement rapide, parce que finalement, nous sommes beaucoup de gauche à l'intérieur de ce mouvement, on n'est pas devenu de droite.
Vous avez du mal à peser quand même.
Non, c'est pas à peser, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble?
Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Tenez, Édouard Philippe pourrait s'adresser à vous quand il dit ceci. Si ceux qui viennent de la gauche sont tellement contents d'être entre eux, on va voir ce que ça donne. Si tous ceux qui viennent de droite, donc lui, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, s'en vont, difficile d'être plus clair sur une menace de démission.
S'il se pose cette question, il faut lui répondre, parce que s'il y a un malaise, il faut lui répondre. Et d'ailleurs, ce malaise est légitime. Nous aussi, on peut dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Donc, nous nous sommes retrouvés autour du programme du président de la République. Moi, par exemple, et d'autres, est taché dès le premier tour.
Mais en ce moment, il y a le clivage droite-gauche qui est clairement...
Oui, et bien justement, parce que peut-être que le moment est venu d'élaborer un corps de doctrine qui nous soit commun. Eux, ils sont
venus... C'est Emmanuel Macron, le corps de
doctrine. À un moment donné, Emmanuel Macron a toutes les qualités, mais s'il était là, il dirait que ça peut en effet ne pas suffire. Ils ont voulu sortir de la droite tant qu'elle était attirée par le pôle d'extrême droite. Nous avons fait le bilan de l'échec de la social-démocratie. C'est très bien. Mais maintenant, on converge autour de quoi ? Quel corps de doctrine ? Peut-être faut-il faire un grand parti démocrate américain qui permettrait d'avoir une droite, un centre, une gauche, et qui serait effectivement un grand parti.
Merci Jean-Pierre Mignard.
Je vous en prie.
Jean-Pierre Mignard, vous lancez un club de réflexion pour rassembler la gauche au sein de La République En Marche. Et parmi les petites phrases que vous avez partagées ce matin avec Audrey Caspomara, il y a celle-ci. Emmanuel Macron n'est pas de droite, il serait un social-libéral à la Clinton ou à la Dominique Strauss-Kahn, voire même Ségolène Royal.
Oui, par bien des aspects.
Merci beaucoup. C'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. À 8h30, l'essentiel de l'info. On va parler de Monsanto. On parlera aussi de l'Union européenne et de Donald Trump. Pas tout de suite.
Avec Nicolas Aliagas sur Europe 1, il est 8h27. À suivre dans la prochaine.
prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker et la revue de presse. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour.
Qu'avez-vous lu aujourd'hui ?
J'ai lu plein de choses qui me rappellent que le temps passe, qu'il peut s'étirer lentement et que le feuilleton d'Aéroport de Paris ne fait que commencer et qu'il pourrait durer.
Lui aussi s'étire lentement, tel un chat qui attend sa proie. Quelle image. Nicolas Conteloup, la revue de presse à 8h40.
Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Et c'est le soleil qui s'installe, Lolo.
Oh oui,
pas
le
partout.
Le soleil, mais le froid. Oh, aujourd'hui, non, c'est simplement la moitié de la France, mais une bonne moitié, hein, une grande moitié nord. Surtout cet après-midi, vous aurez vraiment très très beau, un très beau temps. Et puis, certaines régions conserveront malheureusement encore un ciel agité, notamment sur le Languedoc-Roussillon et la Provence, dans le courant de la journée, avec beaucoup de vent, 60-80 km/h. Vous aurez sur la Corse, la Côte d'Azur et les Alpes du Sud, attention, des orages en deuxième partie de journée et un temps très agité. Sur la Franche-Comté, l'Auvergne, le Limousin, la Nouvelle-Aquitaine, les Alpes du Nord. Il pleut ce matin, mais ça va s'arranger après le repas. Les températures maximales, entre 13 et 18 degrés, c'est encore doux. Ce sera relativement doux dans les jours qui viennent, mais dans la journée. Mais les nuits s'annoncent, on l'a dit, gelantes.
Ouais, gelantes. Faut faire attention.
Ça n'existe pas ce mot. Gelée.
Très froide, en fait. Voilà. Très froide, fraîche, comme vous voulez.
Gelée. Pardonnez mon obsession, mais franchement, entre la nuit de samedi à dimanche et dimanche à lundi, il faut vraiment protéger vos plantes, chers amis. Les professionnels savent ce qu'il faut faire. On descendra à moins 4 probablement, peut-être moins 5. C'est énorme et ça va vraiment mettre en danger vos plantes. Et voilà.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure, on se retrouve dans une demi-heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le jeudi 11 avril, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nikos Aliagas.
Le bras de fer entre un agriculteur de Mayenne intoxiqué par un herbicide et le géant américain Monsanto. La justice se prononce aujourd'hui dans cette bataille qui dure déjà depuis 12 ans. Paul François, qui réclame plus d'1 million d'euros d'indemnisation, a déjà gagné en première instance et en appel. Et il ne lâche rien.
Ils sont capables de tout. Pour un problème d'expertise, ils ont été jusqu'à la Cour de cassation. Se frotter à eux, c'est inimaginable. En novembre 2014, j'ai vraiment envisagé de stopper la procédure parce que vous n'endormez plus la nuit, ça détruisait ma famille, ça détruisait mon couple. Un médecin m'avait dit au départ, en voyant mon dossier, m'avait dit « Vous auriez dû mourir dans l'heure de votre intoxication, vous avez la peau dure. »
Paul François au micro d'Europe 1 de François Coulon. La loi anti-casseurs entre ce matin en vigueur, annonce sur Twitter du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le texte a été promulgué par le président de la République. Date butoir fixée au 31 octobre. Bruxelles et Londres ont donné leur accord hier soir pour une nouvelle date limite du Brexit. Réaction de Donald Trump quelques heures plus tard sur Twitter, je cite « Dommage que l'Union européenne soit si dure avec le Royaume-Uni. L'Europe est un partenaire commercial brutal également avec les États-Unis et ça va changer. » Fin de citation. Nouvelle manifestation des retraités aujourd'hui pour réclamer l'annulation de la hausse de la CSG et la revalorisation des pensions. Ligue des champions, la Juventus, Turin et Barcelone bien placés pour une qualification en demi-finale. Les Turinois ont obtenu le nul, un partout face à l'Ajax. Barcelone a gagné 1-0 à Manchester United.
Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse. Caisse d'épargne vous êtes utile et la revue de presse est avec David Abiker, Nikos.
David, ce matin dans les journaux, l'actualité prend son temps.
Elle prend son temps avec un dessin de Chonu dans Ouest-France. Au terme d'une négociation tardive, on en a parlé ce matin sur Europe 1, où la date limite du Brexit a été repoussée au 31 octobre prochain, Emmanuel Macron et Angela Merkel, sur ce dessin, observent à la longue vue Theresa May, emportée dans un trou noir nommé Brexit. Un dessin qui mélange à la fois la distance de ce fameux trou noir, photographié à 50 millions d'années-lumière, c'est long, c'est loin, rappelle Le Figaro, et le temps politique du Brexit qui s'étire en longueur et que l'économiste Daniel Cohen compare dans l'Obs à une série Netflix, une saga en plusieurs saisons, une saga comparable à la série Game of Thrones qui entamera son ultime saison dans la nuit de dimanche à lundi et dont La Voix du Nord explique ce matin comment, depuis 8 ans, les personnages ont conquis la planète et les téléspectateurs sur la durée. Le temps qui passe, le temps qui reste, mais le temps qui a manqué. C'est la une du site Les Jours qui explique ce matin qu'une contribution sur deux des Français au grand débat a été zappée. Pourquoi ? Ben par manque de temps. Manque de temps pour traiter les 45 000 documents qui ont été numérisés. Le temps encore à la une des journaux, mais celui qu'on remonte avec cette photo sur le site de Paris Match qui montre les fouilles aux Philippines qui ont abouti à la découverte d'un nouvel homo, l'homo luzonensis qui vivait il y a 50 000 ans. Pour une fois, Nico, c'est le temps long qui sort l'actualité de son instantanéité et ça fait du bien.
Mais c'est peut-être un nouveau feuilleton qui débute à la une des journaux, celui de la privatisation d'aéroports de Paris, David.
Et oui, comme le feuilleton du Brexit, c'est la mondialisation du trafic aérien et la compétition internationale qui sont en jeu. Comme pour le Brexit, il est question d'un référendum. En ce jour de vote de la loi Pacte qui prévoit la privatisation d'aéroports de Paris, les journaux et les éditorialistes lancent le début de la saga politique qui pourrait durer. Aéroports de Paris, l'opposition dégaine le référendum, titre Sud-Ouest. Contre la vente d'ADP, en piste citoyen, s'enthousiasme évidemment Libération, mais c'est l'opinion qui raconte l'histoire secrète d'un coup politique parti du Sénat comme un scud, fédérant les Républicains, les Socialistes, le PC et la France Insoumise pour enclencher la procédure du référendum d'initiative partagée pour empêcher cette vente d'ADP au secteur privé. Et dans la presse de la Manche, Jean Levallois s'amuse. Rien de tel que de passer aux travaux pratiques du grand débat. Parmi les exigences des Gilets jaunes, il y a l'accès au référendum pour donner la voix au peuple sur les grands dossiers. Eh bien, ce sont des parlementaires qui s'en sont emparés. Dans La Nouvelle République, Olivier Pirot ironise. On attendait Macron pour rompre avec l'ancien monde. Et c'est finalement l'opposition qui provoque une rupture avec l'ordre établi. Même si, conclut Bernard Stéphan dans La Montagne, le feuilleton qui démarre sera semé d'embûches. La privatisation est une vieille recette, mais elle fait encore recette.
Comme le vinaigre blanc qui démontre son efficacité scientifique à travers le temps.
Eh bien oui, une vieille recette de grand-mère, le vinaigre blanc, mais qui vient de démontrer qu'elle pollue moins et nettoie aussi bien que ses équivalents industriels. Le Parisien aujourd'hui en France raconte comment une équipe de scientifiques a comparé les vieilles recettes de grand-mère aux produits courants. Elle a nettoyé, balayé, astiqué pendant 2 ans et demi une maison expérimentale pour le vérifier. Résultat, les décoctions maison à base de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude polluent moins car elles émettent moins de composés organiques volatiles. Ces poussières que nous inhalons ensuite après avoir fait le ménage et qui peuvent nuire à notre santé. Utiliser le vinaigre, voilà qui pourrait nous ramener au temps d'avant. Ce que le directeur de recherche au CNRS, Michel Mani appelle l'ère de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'homme de l'accélération, du temps qui apparaît vers 1750, celui qui va vite en besogne et en consommation, celui qui prend aujourd'hui l'avion dans ses aéroports de Paris et du monde et que le chercheur appelle l'anthropocène et qu'il place au cœur de la crise écologique dans une interview passionnante donnée à l'Est républicain. Cet anthropocène d'ailleurs, cet homme qui accélère, le Figaro dans ses pages littéraires d'aujourd'hui, l'invite à ralentir en nous donnant l'envie de lire les récits de voyages de quelques auteurs qui ont pris leur temps. Ils ont tous un point commun, ils n'ont pas pris l'avion. L'un a remonté le Danube en longeant ses rives à vélo. Un autre est parti à pied de Paris à Jérusalem. Le troisième s'est embarqué sur un cargo pour faire le tour du monde. Un quatrième est parti randonner le long des 120 km du mur d'Adrien en Angleterre. Et la dernière, une femme, fait l'éloge de la flânerie. Tous ont en commun de ne pas se presser, de jouir de ce que le Figaro appelle l'extase géographique et surtout de prendre leur temps. Voilà qui pourrait nous aider à regarder le Brexit autrement. Alors certes, les Anglais prennent leur temps pour quitter l'Europe, mais ce n'est peut-être pas du temps perdu.
Merci David Abiker, on ne perd jamais de temps avec vous sur Europe 1. C'était la revue de presse.
La revue de presse avec la Caisse d'Épargne, 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Le Grand-Duc arrive, le Grand-Duc de l'imitation. Nicolas Canteloup et Julie dans quelques instants pour rire et sourire. A tout de suite.
Excellente matinée avec Nico Saliagas sur Europe 1, il est 8h38. Il est 8h40, la revue de presse avec Optim Home, 1400 conseillers immobiliers pour louer, vendre ou acheter avec le sourire.
Et ce matin, Nicolas Canteloup n'est pas parmi nous, tout simplement parce qu'il avait quelque chose à faire en dehors de
on
la matinale.
On ne peut pas tout dévoiler.
On ne peut pas tout vous dire.
Il
a une vie compliquée. Enfin, ouais, il est chez lui, il est au téléphone. Donc voilà. C'est exceptionnel, on le pardonne. Est-ce qu'il est avec nous en ligne? Nicolas Canteloup, bonjour.
Allô, oui, Nicolas. Oui, bah alors, c'est bon, ouais. Allez, on y va.
Alors, je parle au personnage de Nicolas Canteloup, on peut y aller, on peut le faire même par téléphone. Rien ne l'arrête. Ouais, c'est parti.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le titre principal de l'actu avec vous, Nikos.
Ouais, par téléphone, par satellite, par fax, par mail, par Minitel, on est là, toujours là. Ma chère Julie, bonjour. L'actu surround de cette matinée, c'est la science. La science de la téléphonie, non. La science, non, qui a découvert une nouvelle espèce humaine. Je suis avec la scientifique qui a découvert ce fossile. Bonjour madame. Alors, cet humain a 50 000 ans, comment l'avez-vous découvert? Présentez-vous et racontez-nous.
Non mais monsieur Aliagas, laissez-moi secrétaire, l'infirmière, je vous ai dit de laisser monsieur Boutefkak tranquille. Il n'a pas 50 000 ans, il a même pas la moitié. Ce n'est pas un fossile, regardez, il fait des boules.
Il fait des boules.
Il y a encore de l'oxygène dedans, ça veut dire. Et ça suffit maintenant.
Pardon, pardon, écoutez, sinon l'autre nouvelle scientifique, c'est bien sûr le trou noir. Les scientifiques ont révélé hier la première photo d'un trou noir. On va vous la montrer sur le Twitter d'Europe 1 et par aucune télécommunication ne nous arrête. Voilà, je l'ai posté, c'est parti. Oh merde, ah non, pardon, j'ai mis une photo de la Creuse, je crois. J'ai confondu, pardon.
Allez.
Voilà, on salue nos amis creusois.
Creusoises,
creusoises,
vous êtes.
Voilà, alors j'envoie la bonne photo. Merde, non, la photo de trou noir, non, c'est pas bon. Non, j'ai envoyé le score de Benoît Hamon aux européennes, pardon, désolé. Je suis fatigué ce matin, voilà, ça c'est la bonne photo qui est partie de... Ah non, ça c'est une photo de narine de Jean Lassalle. Les gars en régie, si vous pouvez m'aider, je m'emmène les pinceaux un peu moins ce matin. Allez, il est temps que j'aille me recoucher. À vous, Julie.
Merci, Nico.
Merci.
Allez, François Hollande a participé à l'émission Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Vous avez peut-être entendu la publicité ce matin. Mathieu, on va vous la repasser, cette pub. Écoutez.
Bonjour. C'est François Hollande. Retrouvez-moi avec Fabrice Delmetta au cœur de l'histoire pour commenter 10 ans de ma vie, 10 ans de succès.
On l'a perdu. Le téléphone, ça coupe pas.
On essaye, en fait, pour tout vous dire, chers amis auditrices et auditeurs, ce matin, avec Nicolas Cantenou, on avait un petit empêchement. Malgré tout, il essaie de faire la revue de presse pour notre plus grand plaisir par ligne téléphonique et on se rend bien compte que c'est compressé, que c'est compliqué, qu'il y a des petites ruptures. Donc, exceptionnellement, on ne la fera pas aujourd'hui, si vous êtes d'accord, ma chère Julie.
Bien sûr.
Hein, et on vous dit qu'on est très frustrés. J'imagine que vous aussi, dans la voiture, c'est l'heure à laquelle vous riez. Vous êtes... Mais bon, on a quand même la petite cerise sur le gâteau.
Oui.
On a toujours un peu de Cantelou qui traîne. Voici un best-of pour le plaisir. C'est parti.
Aux États-Unis, Donald Trump cherche qui est la taupe au sein de son cabinet. Rappelons que le New York Times a publié un témoignage explosif d'un proche collaborateur de Trump qui décrit un président incompétent et amoral. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour ma chère Julie. Écoutez, cette affaire est extraordinaire. Une taupe qui décrit le pouvoir de l'intérieur. C'est inédit. Attendez, on me dit dans le casque que nous avons aussi au téléphone une taupe dans l'organigramme d'Emmanuel Macron, qui veut témoigner anonymement. Nous l'écoutons, c'est une exclusivité.
Ah, dis donc, exclusivité, oui, bravo.
C'est fou, c'est fou. Est-ce qu'on peut nous passer la taupe en régie?
Oh non. René la taupe.
Non. Là, il y a confusion, Romain. Ça, c'est René la taupe. Et je parle de celui qui veut faire des révélations sur Emmanuel Macron. Allô, monsieur.
J'ai oublié.
Il y a quelqu'un qui veut en parler?
Oui, bonjour.
Je m'appelle Bernard Coton.
Bernard Coton, oui.
Oui, je suis un proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je dois vous informer les citoyens sur ce qui se passe. Attention, je vais tout balancer. Emmanuel Macron, il faut que les Français le sachent, enfin, est un génie.
C'est un génie, hein.
Sauveur, c'est l'homme le plus brillant de France et sa luminescence va nous sauver. J'ai conscience, vous savez, de choquer nos concitoyens en révélant cela, mais je ne peux plus me taire. Quel homme c'est Emmanuel Macron.
Alors, Bernard Coton, merci de votre témoignage. Justement, coïncidence, hier Gérard Collomb a déclaré que le pouvoir manquait d'humilité. Qu'en pensez-vous, Gérard Coton?
Oui, c'est pour ça que je veux tout dévaler ce matin. Emmanuel Macron est un surhomme, il pourrait se la raconter grave. Voilà, donc hier j'ai dit une connerie et je me suis trahi. Heureusement que personne ne m'a reconnu.
Non, à peine. Bon ben merci. Emmanuel Macron veut rendre les services publics plus efficaces. On va recevoir le responsable de la CGT Cheminots. Mais on va d'abord vous faire réagir sur le coup de fatigue d'Emmanuel Macron qui a avancé le Conseil des ministres pour pouvoir se reposer en famille.
Ah, la vedette, ah la vedette Macron, elle est crevée la vedette, en burn-out la vedette, alors ça, ça donne des leçons et puis ça tient pas la route, ça tient pas le rythme, peut-être qu'il fait grève en fait Macron, oh, oh elle fait grève la vedette
S'il vous plaît, monsieur CGT cheminot, là, revenons à ma question, l'État veut supprimer des postes dans la fonction publique et mettre en place une rémunération au mérite et des indicateurs d'efficacité. Est-ce que ça vous parle, ça ?
Oh, soyez pas grossière, Leclerc. Des indicateurs d'efficacité, plutôt encore. Hein, je t'en foutrais, moi, des indicateurs d'efficacité. Si on vous payait Covan Marante, vous, ça vous ferait plaisir. Hein, vous seriez vite au RSA. Hier, votre van sur les chanteurs décédés, devant Sylvie Vartan. Elle était marrante ou pas? Ça rit jaune, là. Oui, mais ça rit quand même. Comme quoi, ouais, à la CGT, on innove, on invente la vanne à deux bandes. Le bide de la veille pour faire rire le lendemain. On n'est pas des ringards, on est des innovateurs à la CGT.
Ah, j'aime ce...
Ah, vous faites l'unanimité,
hein. Cette forme d'extase au sein de mon... Non. Écoutez, bonjour à tout votre troupeau. Mais qui voulez-vous recevoir ? L'homme politique ou bien la star de cinéma ?
Oh, arrêtez avec
si,
ça.
Si, disons-le. Dites les mots. Le Gilles Lelouch des forêts, le Guillaume Canet des sentiers, le Jean du Jardin des jardins, ou la vedette américaine des Pyrénées, Georges Grenet.
Georges
Grenet. Écoutez, je parle anglais. What else?
What else? Georges Grenet, bah,
what else?
On est loin. Hein, allez, on sait que vous êtes contre la limitation à 80 km/h dans la salle, mais c'est pas parce qu'on vit à la campagne qu'on ne doit pas respecter les consignes de sécurité routière.
Mais je respecte, madame Julie, la sécurité routière.
Très bien.
Quand je traverse une route, je regarde à gauche, je regarde à droite. Mais je vais vous faire une confidence.
Oui.
Je ne vois ni les voitures à gauche, ni les voitures à droite.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, j'ai un problème d'angle visuel à cause de mon nez. Oui, ça me fait des angles morts. Donc, je ne vois ni les voitures qui arrivent de gauche, ni qui arrivent de droite. Et c'est un vrai souci. Je ne dois pas être le seul en France. En fait, je vais vous expliquer, M. Gravol, si ça vous intéresse, que nous ne sommes pas loin d'avoir le même souci. Mon nez traverse. Et moi, je le suis à 3-4 minutes après. Mais comme il n'y a qu'une voiture tous les 3 ans dans mon département, ce n'est pas si dangereux.
Bon. Et votre film, alors, celui qui narre votre défaite à la présidentielle, Monsieur Lassalle.
Oui, c'est une art, en fait, une défaite qui s'est produite in extremis. Ça s'est joué à un poil de ragondin.
Oui, oui, enfin bon. Pour l'instant, c'est quand même assez calme hein, dans les salles. Ça marche moins. Que qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?
Mais alors,
que Nicky Nelson, Larson.
Mais Nicky Nelson, n'importe quoi. Hein. Laissez M. Montfort de côté, Nicky Larson.
Non,
ce n'est pas vrai. C'est une fake news que vous colportez et ça me déçoit de votre radio. Fake news. Ça cartonne mon film dans toutes les forêts, car il n'y a pas que la ville dans ce monde. D'ailleurs, si tous les spectateurs qui ont vu mon film votaient pour moi à la prochaine présidentielle, eh bien, je perdrais peut-être quand même d'environ à peine 12 millions de voix. Voyez que ça ne tient à rien, une présidentielle.
Allez, on va parler un petit peu de sport maintenant. Lucas Pouille qui joue dans une demi-heure contre Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie. Nelson, vous êtes avec Lucas Pouille.
Oui, ma chère Gigi, je suis avec Lucas. Lucas, on est. Buenos dias, señor Pouille, te quiero. La France, te quiero.
Attendez, Nelson,
te quiero tout le monde.
Nelson, pourquoi vous lui parlez en espagnol ?
Écoutez, ma chère Julie, il s'agit d'un joueur en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Donc forcément, il n'est pas français, c'est impossible. Donc, je lui parle dans sa langue maternelle, sa langue de champion en espagnol, comme il se doit.
Caramba, mais enfin, caramba. Il est français, Lucas Pouille, allons.
Ah, comment ça, non, ce n'est pas possible. Lucas, attendez, là vous mettez le doute. Je demanderai à Lucas d'aller se soumettre à un contrôle antidopage. À mon avis, vous avez du sang espagnol dans les veines, mon cher Lucas.
Nicolas Canteloup, la revue de presse, évidemment, demain, et il sera là et en direct. On a eu des petits problèmes techniques ce matin. On a essayé de le faire par téléphone, mais bon, l'essentiel, c'est que le lien soit toujours fort entre vous, auditrices et auditeurs, et nous, avec évidemment notre, le roi de la matinale, c'est Nicolas Canteloup, avec Julie. Merci beaucoup.
On embrasse. C'était la revue de presse avec Optime Home. Pour évaluer le juste prix de votre bien immobilier, rencontrez un de nos conseillers Optime Home ou rendez-vous sur ooh-immobilier.com pour une estimation en 2 minutes chrono.
Quand elle fait le tour de la question, elle va au fond des choses. Et c'est Wendy Bouchard qui est avec nous. Bonjour Wendy.
Bonjour Nico, si on aime ça pour vous chers amis, entre fantasmes et réalité, entre 9h et 10h, nous allons d'abord parler des liens qu'entretiennent les Français avec leur police. 76% d'entre vous disent faire confiance à leur police, police nationale, police municipale et de proximité. La police, vous aviez vénéré, adoubé pendant les attentats de 2013, en première ligne lors des tensions sociales des Gilets jaunes. Une police fatiguée, un taux de suicide 36 fois supérieur à la moyenne nationale. On parlera quand même de ce malaise constant avec des spécialistes et des représentants, le commandant de police Christophe Rouget, l'ancien patron du RAID Jean-Michel Fauvergue et Olivier Norek, qui est passé de la réalité à la fiction. Aujourd'hui, il écrit, ancien de la PJ.
De 9h à 10h.
De
9h
à 10h. Voilà. Puis à partir de 10h, on va s'intéresser aux jeux vidéo. Alors, on les pense un petit peu l'apanage finalement des jeunes, des enfants, des adolescents, mais sachez qu'un Français sur deux joue aux jeux vidéo, que la moyenne d'âge est 34 ans, qu'elle a des effets peut-être addictifs mais aussi thérapeutiques. Donc, on va un petit peu réorienter le sujet. Vous verrez, voilà, les jeux vidéo qui ont un impact quand même assez cognitif.
Ah, je ne le savais pas.
Donc voilà, quand on maîtrise évidemment la récurrence, la fréquence de jeu, c'est intéressant. Et on fait le tour là aussi.
Wendy Bouchard, à partir de 9h, allez, dans 7 minutes.
À suivre la météo avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h54, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nikos Aliagas, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Le froid Laurent,
le froid pour aujourd'hui, disons assez relatif, hein. Nous avons des valeurs d'entre 0 et 10 degrés, mais demain et après-demain c'est un froid vraiment intense, j'en reparlerai demain, parce que c'est quand même très important, ce sont c'est une petite vague de froid de 3-4 jours, mais enfin qui sera assez spectaculaire. Alors pour aujourd'hui, eh bien, le beau temps arrive par le nord, c'est une fois n'est pas coutume, toutes les régions de la moitié nord seront sous un temps ensoleillé, alors que dans les régions du sud, il va falloir attendre en Franche-Comté, Auvergne, Limousin, Nouvelle-Aquitaine, Alpes du Nord, il va falloir attendre cet après-midi pour voir quelques rayons de soleil. Sur le Poitou-Charentes, ça ira un peu plus vite. Sur les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse, c'est l'inverse. Là, ça va commencer à se gâter avec des orages, avec un temps agité. Vraiment, ce sera pas terrible, terrible. Hein. Sur le Midi-Pyrénées et tout. Languedoc-Roussillon et Provence, du vent et un ciel voilé, et puis de la neige en montagne et des températures maximales entre 13 et 18 degrés, donc ça reste encore agréable, mais je vous le disais, ça ne va pas durer.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Nikos Aliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater, après le grand débat, les solutions, Emmanuel Macron va parler, ce sera en début de semaine prochaine, une intervention solennelle à l'Élysée, suivie a priori d'une explication plus longue dans une interview donnée à la presse régionale. Alors pour dire quoi et sous quelle forme, les informations de Jean-Michel Apathy, c'était à 7h40.
L'expression « immense exaspération fiscale » ça lui a à moitié plu à Emmanuel Macron. Il devrait malgré tout parler de la fiscalité, mais pour parler plutôt de justice fiscale que de baisse des impôts. Le président de la République veut aussi beaucoup parler d'urgence climatique. Il a été marqué par la persistance des demandes en matière de services publics, de proximité, santé, éducation, notamment. Là aussi, il voudrait faire des annonces. Et puis, il veut parler exemplarité, transparence, expression des citoyens. On reparlera sans doute du référendum. Donc, une intervention très complète. Il joue très gros Emmanuel Macron et il se prépare très minutieusement à cette intervention au début de la semaine prochaine.
Un constat édifiant maintenant. En France, un SDF sur 4 est un ancien enfant de la DAS. Le système de protection de l'enfance ne fonctionne plus. Bagarres, maltraitance dans les foyers, viols, perspectives d'avenir incertaines pour ces jeunes qui se retrouvent bien souvent à la rue sans aucun diplôme. À 7h45 ce matin, je recevais la députée Perrine Goulet, rapporteure de la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance. Elle-même avait été placée en foyer à l'âge de 9 ans. On écoute son témoignage.
Bon. On ne peut pas continuer à avoir autant d'enfants cassés dans notre pays, c'est pas possible. On les pousse à sortir du système, mais on ne les prépare pas à être autonomes. Qui laisserait son enfant du jour au lendemain à 18 ans à la rue en disant « tu te débrouilles ». Le contrat jeune majeur, c'est une obligation faite au département d'accompagner les jeunes jusqu'à leurs 21 ans. C'est dans le projet de loi. Pourquoi 21 ans ? Un enfant qui veut faire 4 ou 5 ans d'études, 21 ans, elles ne sont pas finies. Donc je pense qu'il faut aller plus tôt vers un accompagnement jusqu'à l'insertion de ces enfants.
Perrine Goulet est notre invitée ce matin.
Comment faire face aux montagnes de déchets que nous produisons? C'est un défi écologique auquel sont confrontés les États, à commencer par les États-Unis. Et la meilleure solution, c'est d'avoir moins de déchets. C'est ce que va proposer un tout nouveau service le mois prochain. C'est Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis, qui nous en parlait. C'était à 7h20 dans Europe 1, va plus loin, on l'écoute.
Ça s'appelle The Loop. L'idée, c'est de remettre au goût du jour la bouteille du laitier, vous savez, déposée pleine devant votre porte et que vous rendiez vide pour être re-remplie. Eh bien, avec The Loop, pareil pour tous les produits de la vie courante, remplacer les emballages jetables par des contenants réutilisables, un pot en acier inoxydable, par exemple, plutôt qu'en carton, pour mettre de la glace. C'est en France que ce service sera lancé en tout premier, le 14 mai prochain, en espérant révolutionner notre manière de consommer et donc de jeter.
Voilà pour l'essentiel de la matinale. Merci de votre confiance. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. À vous de votre fidélité. Prenez soin de vous. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Wendy Bouchard arrive dans quelques instants avec ses invités. Vous commencez par la police.
Exactement, on vous attend avec vos témoignages au 39-21. À demain, cher Nikos.
Julie vous accompagne. Céline Dacosta, à demain.
À demain, Nikos.
Prenez soin de vous.